Mais c'est de la merde!
Ah, mais moi j'aime bien ce film en fait. Tu aimes bien ce film, mais tout le monde le déteste? Mais t'inquiète pas, nous aussi. Mais moi j'aime bien ce film, le podcast qui revient sur ce film qu'on aime bien, mais que tout le monde déteste. Eh ben bonjour tout le monde, bienvenue dans « Mais moi, j'aime bien ce film », je suis Xiane Moriarty et aujourd'hui on se retrouve pour parler tout ensemble d'un nouveau film merveilleux qui s'appelle « Van Helsing ». Pour parler de ce film absolument merveilleux, je suis avec trois invités, donc comme d'habitude, Salina, hein, puisque c'est la coproductrice de cette émission, coucou Sally.
Bonjour.
J'ai également avec moi Léandra.
Bonjour.
Et enfin, la meilleure d'entre nous, hein.
Oh, n'exagère pas.
L'amie de plus de 20 ans.
C'est ça, la vieille, quoi.
Voilà, on est avec Camille. Bonjour Camille.
Salut. Bonjour tout le monde.
Alors, on va commencer rapidement. Sally, Léandra et puis Camo, présentez-vous.
Bonjour, moi je suis Salina. Dans la vraie vie, je suis Bad Girl. Et donc, j'anime avec Xiane Moriarty, qui est ma sœur au passage, si vous ne le saviez pas, cette émission consacrée à Van Helsing.
Bonjour, moi c'est Léandra. Moi, dans la vraie vie, je suis ingénieure et je travaille dans le domaine des neurosciences. Et sinon, j'adore l'imaginaire, la littérature de SFFF. Donc voilà, et puis bah, sinon, je traîne sur Blue Sky, donc vous pouvez me retrouver avec ce même pseudo-là. Voilà.
Et ben moi, je suis donc illustratrice freelance depuis bientôt 6 ans, et donc je touche un petit peu à tout ce qui est dessin, illustration, BD, et je donne également des cours d'aquarelle et d'illustration à l'occasion.
Voilà, parfait, merci les filles. Bon ben, on va commencer par la petite présentation de Salina, puisqu'elle est là pour ça, hein. Moi, je suis l'animatrice, hein. Je suis là pour dire des conneries et vérifier les tours de table, hein. Et dire quand il y a du beau gosse aussi.
Très bien. Donc, Van Helsing est donc un film sorti en 2004, réalisé par Stephen Sommers, avec au casting Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roseberg et David Wenham, pour les personnages les plus connus. Le film comporte aussi une très jolie musique de Alan Silvestri. Il faut savoir que Stephen Sommers et Alan Silvestri ont déjà travaillé ensemble sur La Momie 2. Le premier et la première OST de La Momie étant réalisée par Jerry Goldsmith, mais qui s'est fâché avec Stephen Sommers pour diverses raisons. Je vous laisserai aller écouter Total Tracks pour en apprendre plus. Promo podcast musique de film.
On va commencer à parler de ce film qu'on adore, qui est merveilleux, qui n'a absolument aucun défaut scénaristique.
Aucun.
Scénaristique et visuel, hein, je précise.
Visuel aussi, oui.
Avec des effets spéciaux à couper le souffle, hein.
Bah, quand on sait que le Seigneur des Anneaux a été fait, genre, quelques années avant,
bon. Ça pique.
La comparaison est un peu cruelle. Ça pique un peu, ouais, par moment. Mais bon, on va pas s'arrêter à ces détails.
Oh, il y a pire.
C'est ce qui fait tout le charme.
Oh, clairement. C'est ce qui fait, Mais c'est ça, c'est ce qui fait tout le charme. Exactement.
Bon, alors, on va commencer par l'introduction du film.
Oui, on pourrait même parler de double introduction, parce que il fait partie de cette génération de films qui se tapent deux introductions avant de lancer dans le vif du sujet, hein, ce qui a le don de m'agacer. Mais encore, ça passe bien. Donc le film commence avec, alors faut le savoir, avec le logo de la Universal, parce que le film était censé être un peu le Monsterverse que Universal n'a jamais réussi à faire, ou qui s'est toujours bien planté, hein. D'ailleurs ce film, première tentative du Monsterverse, ça n'a pas été une grande réussite non plus, hein, visiblement. Donc avec le logo de la Universal et en noir et blanc. L'introduction se fait donc en noir et blanc, qui est totalement un renvoi à tout justement les vieux films de monstres de la Universal des années 30. Et on débute avec une horde de gens pas très contents qui prennent d'assaut un château dans lequel il se passe des choses assez bizarres.
Pas content, pas content,
ah oui,
pas content.
Mais moi c'est ce que j'aime en fait, le début c'est direct, on rentre dans le vif du sujet quoi.
Ah oui, puis c'est vraiment un bel hommage aux Universal Monsters, hein. Donc en fait dans le château, Évidemment, dehors, il fait pas beau, il y a un orage, un éclair, et boum, un éclair qui tombe sur le château, qu'on voit parcourir de longs fils, et pour arriver sur « It's alive! It's alive !» Voilà, donc, comme vous l'aurez compris, nous arrivons donc sur le Dr. Frankenstein en train de créer sa créature, avec une foule pas contente.
Meilleur personnage du film, la créature d'ailleurs, au passage.
C'est vrai.
Oui, très très bon personnage, très très bonne créature, hein. On va vous renvoyer vers l'émission qu'on avait fait sur les adaptations avec Camille et Christelle Dabos. Et peut-être l'épisode 2 qu'on fera un jour aussi, parce que ça, de Frankenstein, les adaptations, je peux vous en parler en long, large, en travers.
Ah ouais, ouais, ça, ce serait chouette, ça, ouais.
Mais pas demain, il y a Piscine. Pas demain, il y a Kiro.
Bah oui, on a le temps, de toute façon.
Et donc, Dr. Frankenstein, très content de sa réussite, hein. Et là, apparaît un nouveau personnage, qui n'est d'autre que Dracula!
Dracula!
Richard Roxburgh!
Richard!
Oui!
Oui, alors c'est très rigolo parce qu'on enregistre cet épisode juste après avoir fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui partage deux points communs, qui va être donc la présence de Richard Roxburgh dans les deux.
Ah, ok.
En méchant, bien évidemment. Et on en parlera un petit peu plus tard pour la deuxième introduction qui est Jekyll and Mr. Hyde. Et donc, Xian, comme t'as très envie de parler de Richard Roxburgh, je te laisse continuer. J'ai envie de dire, ouais, dans ce film, de toute façon, à part lui tirer la queue, on n'a pas envie de faire grand-chose.
La queue de cheval, évidemment.
C'est vrai.
Bien sûr, évidemment, je ne parlais pas d'autre chose.
Ah bah non.
Vous savez bien, je suis une enfant pure et innocente, moi.
Tout à fait,
c'est sûr.
Donc voilà, donc bon, Richard Roxburgh, qui est probablement à l'un de ses sommets de la beauté, hein, parce que quand il fait Moriarty dans Les Gis, c'est très bien, hein, on oubliera qu'il joue dans Moulin Rouge, qui fait le duc, où c'est un peu moins bien. Et en fait, on a un Dracula qui va planter un peu le personnage et le décor du film, entre guillemets, parce que Richard Roxburgh cabotine à mort, à donf, de la mort qui tue dans ce film. En alternant « Oh, je suis gentil, machin », puis après « Je suis très méchant », et il s'éclate. Et on a surtout ce moment absolument merveilleux où Victor Frankenstein veut tuer Dracula, et puis hop, pff, je m'empale voilà. Hein, on parlait de tirer les queues de cheval, hein, mais
visiblement,
il y en a bien qui aiment bien s'enfiler sur des choses, hein, on dira rien.
C'est vrai que cette scène, elle est très bien.
Écoutez, cela ne nous regarde pas.
Pour les gens qui n'auraient pas vu le film, donc Dracula veut prendre possession de la créature de Frankenstein, qui n'est pas très d'accord parce que c'est son bébé, sa créature, gna gna. Et donc, pour se défendre, Frankenstein prend une épée et menace Dracula genre, je vais vous tuer, quoi. Bon, sauf que Dracula, on sait tous, il est déjà mort. Et en fait, il s'approche de Frankenstein et il s'empale sur l'épée avant de tuer Frankenstein d'un grand coup de quenotte dans la jugulaire.
Et voilà, ainsi se termine un crossover, le premier crossover du film.
Ouais, voilà, c'est bien triste. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette première intro, enfin ce début d'introduction, Léandra ?
Ah bah moi j'adore parce qu'en fait, alors déjà rien que la musique, elle est, c'est déjà à fond les ballons. Il y a le noir et blanc qui donne vraiment un cachet, hyper sympa quoi. Et je trouve que ouais, on rentre directement dans le vif du sujet quoi. Donc c'est ça qui est sympa dans ce film. En fait, tout du long c'est comme ça, mais c'est à fond quoi. Ça va à fond et c'est ça que j'aime en fait dans ce film. Donc voilà. Et c'est vrai que bon, ce Dracula, moi je le trouve sympa. Enfin, je le trouve vraiment fun comme personnage quoi. C'est sûr que c'est pas le Dracula de Coppola, mais voilà. Du coup, ça change. Il est plus jeune, plus sympathique. voilà.
Moi, je trouve qu'il apporte une touche d'originalité parce que c'est vrai que Dracula, quand on regarde tout un peu les panoplies, qu'on va de Bela Lugosi à Gary Oldman entre guillemets. Ouais, t'as des choses un peu différentes, mais t'as toujours un peu ce côté érotique, sexuel qui revient.
Oui, forcément.
Et finalement, là, t'as plus le côté cabotin qui s'amuse, qui déconne, en fait. Et ça pas... Alors, je parle pas forcément de la parodie de Mel Brooks, hein, Dracula mort et heureux de l'être, parce que c'est encore autre chose, hein. Voilà, mais voilà, on est quand même sur un Dracula qui, en fait, propose une personnalité un petit peu différente de ce qu'on a d'habitude.
Alors après, il y a un point aussi que je voulais... Je sais pas si vous l'avez vu en VF ou en VO, le film.
Les deux.
VF, moi.
Voilà, moi je me rappelle l'avoir vu en VF, et donc là je l'ai revu en VO la semaine dernière, et je l'ai revu en VF ce matin. Comme quoi j'adore ce film. Et effectivement, il prend quand même un accent qui est particulièrement savoureux, je trouve, en anglais, qu'il n'y a pas dans la VF.
Oui,
oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que j'ai écouté des petits bouts comme ça en VO, et on perd beaucoup en VF, finalement.
Ouais, il y a beaucoup de personnages dans la VF qui ont pas d'accent, alors que dans la VO, ils ont des accents, quoi.
Oui, alors faut savoir que c'est rigolo que t'évoques l'accent que prend Richard Roxburgh, parce que quand on a regardé le making-of de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, en fait, Richard Roxburgh quasiment change d'accent à quasiment chaque apparition dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires en VO.
Ah oui, d'accord.
Alors moi, je t'avoue que j'ai jamais fait très attention à ça, mais c'était lors des commentaires de réalisation qui disaient ça, en fait.
Bah, il doit kiffer faire les accents.
Parce qu'il faut savoir que c'est un casting très australien, hein, parce que ce soit Richard Roxburgh, Hugh Jackman ou David Wenham sont des Australiens, en fait. Mais voilà, mais c'est rigolo d'évoquer ça, alors que ça revenait déjà dans la Ligue avec Roxburgh.
Peut-être qu'il... Alors, je sais pas s'il fait du doublage, des choses comme ça, mais il serait pas mal, ouais. Voilà, pour changer de voix comme ça, si c'est un peu un de ses talents, ça ferait du bon comédien de doublage.
Mais je crois que pourtant, pour ce film, il avait reçu un award, un truc comme ça, du moins bon accent de l'année.
Oh, les gens sont cruels.
Je crois que j'ai vu ça, mais il faudrait que je retrouve l'info, parce que je sais pas si c'est vrai ou pas, quoi. Mais c'est vrai que bon, ils ont tous des accents un peu, voilà, particuliers, quoi. Mais c'est marrant.
Pour continuer sur cette intro, moi, ce qui est aussi intéressant, donc on parle beaucoup de Dracula, parce que beau gosse tout ça, mais il y a pas mal la créature aussi qui est... qui, mine de rien, on l'a un peu oublié, la créature qui, pour le coup, est, j'ai presque envie de dire, presque steampunk, un peu dans sa conception,
ah ouais.
Un peu chelou. Et tout de suite, on voit que c'est un personnage un peu plus profond, parce qu'il essaye de sauver le corps de son père. Alors, Frankenstein, il est mort, mais il s'enfuit avec le corps. On voit qu'il comprend pas ce qui lui arrive. Et tout de suite, on pose les bases sur quoi on va avoir la créature. Je vais pas dire un philosophe, pas loin, mais quand même le personnage peut-être le plus réfléchi, le plus profond, le plus touchant du film.
Ah oui, vraiment, ouais.
Bah, au moins, on sait qu'il a un cerveau, hein, puis qu'il sait s'en servir, contrairement à d'autres personnages qui sont nés avec, mais qui savent pas spécialement s'en servir pendant le film.
Tout à fait. Alors, faut savoir que dans le livre, en plus, effectivement, la créature a vraiment un cerveau. Hein. L'image de Boris Karloff ne poussant que des grognements, c'est vraiment version 1930. Dans le livre, il est même très futé. Et notons aussi l'apparition de Igor dans cette introduction.
Oui.
Et pour qui je vais rappeler que ce personnage n'existe pas dans les livres. Igor est une pure invention cinématographique. Hein. C'est un personnage qui n'existe pas dans Frankenstein. Mais voilà, bon, il y a toujours besoin d'un larbin, donc...
Voilà, autant prendre un qui existe déjà dans l'imaginaire commun, collectif.
Bah, dans le Universal Monster, quoi.
Ouais, voilà.
Donc cette première intro se finit avec la créature qui essaye de récupérer le corps de son père et fuir cette foule, cette bienveillante foule. Et donc, il se réfugie dans un moulin qui prend feu parce que la foule fout le feu en espérant tuer ce monstre. Et le moulin s'écroule en emportant la créature et le corps de Frankenstein. Dracula n'est pas du tout content puisqu'il avait besoin de cette créature pour satisfaire ses trois femmes.
Titre.
Et on expliquera un petit peu plus tard en quoi consistait la satisfaction de ces trois femmes.
Ouais, ces trois personnages.
Voilà, bon, ce qui sont les trois fiancées de Frankenstein. Ça y commence à dire du caca. Les trois fiancées de Dracula, hein, qu'on voit aussi dans les adaptations assez régulières. Hein. Là, au moins, il y en a un qui s'est posé une question. Mais qu'est-ce que Dracula fait avec trois meufs pendant des siècles?
Mis à part les... Voilà.
Jouer au Scrabble.
Voilà.
Toujours des histoires de queue de cheval.
Exactement.
Voilà. Donc ça, c'est l'introduction très Universal Monster, hein, vraiment un hommage. D'ailleurs, le moulin est aussi une référence Universal Monster. Hein. De toute façon, le but de ce film, c'était vraiment de dégueuler de l'amour sur les films Universal Monster en mettant des couches et des couches et des couches, hein, avec beaucoup d'amour et de « j'en mets toujours plus », qui en fait porte peut-être un moment préjudice au film. Mais c'est ça qu'on aime.
Bah oui.
Voilà. Donc, cette belle introduction noir et blanc étant passée, nous arrivons sur la seconde introduction, dans lequel nous allons introduire un mystérieux personnage masqué qui, visiblement, est à Paris.
Alors là, ce qui se passe un an plus tard, un an après la première intro.
Ok, j'avais pas noté les dates.
Point Chauvin, c'est à Paris.
C'est à Paris, très certainement tourné à Prague également.
Et une chose appréciable, c'est qu'il n'y a pas d'accordéon.
Non.
C'est un des rares films où on montre Paris sans qu'il y ait d'accordéon dans la bande-son.
C'est vrai.
Amélie Poulain, sort de là.
Non, mais c'est assez rare pour le signaler.
Il n'y a pas de baguette.
Merci Alain Silvestri.
Oui, franchement.
Pas de baguette, pas de béret.
Oh, le chapeau de Van Helsing, ça compte.
Oh, quand même.
Non, c'est pas un béret.
Ah, c'est pas un béret, c'est pas un béret.
Nous suivons ce personnage masqué qui a l'air de traquer quelque chose qui est monté dans Notre-Dame.
On sait qui a mis le feu à Notre-Dame en 2019, un truc comme ça. C'était pas un accident de chantier.
Théorie du complot, bonjour. Donc nous, on voit de loin effectivement un plan sur Notre-Dame et on voit une grosse créature qui monte. Bon, référence au bossu Notre-Dame, merci, bonjour. Il faut savoir que le bossu Notre-Dame a été adapté aussi dans les années 30, hein, donc on reste encore dans la thématique. Pas sûr qu'il soit adapté par les Universal, mais il y a des vieilles versions, hein.
Puis il y en a une plus récente, entre guillemets, assez vieille, c'est Richard Harris qui fait Frollo, Salma Hayek qui fait Esmeralda. Ouais, Dumbledore fait un peu peur, mais plus que d'habitude.
Ouais.
Bah, tu sais, on reste dans l'Universal Monster, mais dans l'une des premières adaptations du bossu de Notre-Dame, c'est Lon Chaney, hein, qui joue le bossu, ce qui a d'ailleurs un peu lancé sa carrière aussi, hein, l'homme aux mille visages. Donc voilà, une magnifique vue sur Paris, hein, où Paris c'est beau, c'est bien, c'est propre, il n'y a pas un pécor. Bon ok, c'est la nuit, mais quand même. Donc voilà, et visiblement on rentre très facilement dans Notre-Dame, même en pleine nuit.
Ah bah, écoute, après il a des grappins, il a plein de trucs. Je parle du mystérieux personnage masqué, mais... Et puis l'autre, il a des capacités physiques incroyables, donc c'est aussi... on voit clairement qu'il escalade des tours, comme si c'était du nougat, donc...
Voilà, et donc on va se retrouver à l'intérieur de Notre-Dame, sûrement dans les tours et les combles, hein, vu l'endroit au niveau des cloches. Et là, nous découvrons que le mystérieux personnage masqué, ta-ta-ta, est Van Helsing.
Ouais, Wolverine.
Ouais.
Presque remarqué dans cette scène.
Avec un peu plus de cheveux quand même.
Parce qu'il va pas sortir ses griffes, mais il va sortir autre chose.
Plus de cheveux et moins de barbe, ouais.
Et pas de combinaison jaune.
Non. Quoiqu'à l'époque, il n'avait pas encore la combinaison jaune, mais ça va être très, très bientôt réparé.
Bientôt. Et voilà, et donc le personnage qu'il est en train de poursuivre n'est autre que Mr. Hyde, qui chique un gros cigare.
Ouais, mais et là, quand même, gros jumpscare, hein. Enfin, cette scène-là, à chaque fois, c'est jumpscare, quoi, parce qu'en fait, il attend que le personnage arrive, et puis d'un coup, pouf, il sort de nulle part, quoi. Moi, ça me fait toujours rire.
Oui, surtout qu'énorme comment il est, le Hyde, on devrait l'entendre marcher, quoi.
Ah oui, mais il est au plafond en même temps.
Donc on va arriver sur le personnage de Hyde, hein, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, qui est fait intégralement en numérique et qui pique un peu les yeux quand même. Hein.
Ah, moi j'aime bien.
Ouais, il pique les yeux, mais pour l'anecdote, c'est la voix de Robbie Coltrane.
Oui, c'est Robbie Coltrane, c'est Hagrid qui fait Hyde, en VO bien évidemment, parce qu'en VF...
évidemment.
Voilà. Et c'est là qu'on peut comparer avec Elik G qu'on a fait il y a quelques jours, où ils ont aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui lui, par contre, est intégralement fait en costume, en prothèse et tout ça. Et résultat, les films sont sortis en même temps, hein, 2003-2004. Et résultat, il y a un Hyde qui a vachement mieux vieilli que l'autre, en fait. Et ouais. Pourtant, ils ont la même représentation quand Jekyll se transforme en Hyde. C'est « je deviens beaucoup plus gros, beaucoup plus fort, beaucoup plus mastoc, beaucoup plus simiesque hein. ». On dirait tous les deux presque des gorilles, un petit peu. Hein. Alors que bon, faut savoir que dans le livre, hein, Monsieur Hyde, il est plutôt décrit petit, pas beau, très simiesque, justement. Hein, mais ça devient pas du tout une grosse brute, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose de très cinématographique.
On pourra noter l'élégance de Monsieur Hyde, hein, qui remonte son fut, hein, qui est en train de trouver sur son gros fessier.
Ah oui, mais moi, j'adore ce personnage.
Oui, on a le droit à un remonté de pantalon pour peu qu'on verrait une grosse paire de fesses, là.
Entre le fait qu'il écrase son cigare sur sa langue et qu'il le mange et ses fesses, moi, je trouve ça trop drôle. J'adore cette scène.
Ouais, mais tu vois, là, t'as presque Monsieur Hyde un peu... Enfin, ouais, il est provoque, il est irrévérencieux,
justement, t'as presque tout le contraire du gentleman, du théorien, le gentleman anglais qui est censé être Dr. Jekyll, parce que là, je vais revenir, alors moi, je l'ai pas regardé, mais j'en ai des souvenirs lointains, il faut savoir qu'il y a une espèce de préquel à Monsieur Hyde qui existe en dessin animé avec Van Helsing, parce qu'on voit bien que dans cette intro, ils ont l'air déjà de se connaître, hein, tu m'as pas loupé à Londres, et en fait, il y a un dessin animé qui raconte cette préquel, et... Bon, on va pas se mentir, on va pas trop développer sur ce dessin animé, mais dedans, Dr. Jekyll, c'est pas vraiment un gentleman en théorie, hein. Il a des idées un peu cheloues, déjà.
Ouais, il veut pas faire des trucs avec la reine.
Oui, voilà.
Ouais, il y a un truc bizarre, ouais. Un souvenir, là, comme ça.
Ouais, il y a des trucs un peu douteux.
Bon, donc va s'en suivre un affrontement. Que pensez-vous de cet affrontement, Camille, je t'en prie.
Alors, cet affrontement, bah, il donne bien le ton du film, en fait. Il annonce bien la couleur de ce qui nous attend pour la suite. C'est que c'est des cascades très grandiloquentes, hein, on va dire ça comme ça. Bah, tout de suite, voilà, on est plongé dans l'action. On sait déjà qu'il faut suspendre l'incrédulité là pendant le reste du film et se dire bon, je regarde un film. Moi, je serais morte 10 fois déjà depuis le début du film, mais les personnages, eux, ils s'en sortent jusqu'à un certain point. Donc voilà, on va partir de ce, voilà, on va suspendre notre incrédulité jusqu'à la fin et on va passer un bon moment en se disant que de toute façon, c'est un univers fictif et voilà, il vaut mieux s'y habituer maintenant. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé. Dans mon souvenir, il y avait des plans assez intéressants pendant cette bataille parce que tout se passe sur Notre-Dame. Et ce qui est pas sans rappeler justement la bataille du Bossu de Notre-Dame, que ce soit Quasimodo, les plans sur Notre-Dame, tout ça quand il chante, ou la bataille finale avec Frodo, Frollo, c'est pas le même.
On va faire des crossovers chelous maintenant.
Ouais, ça c'est mal parti ça. Mais non, alors visuellement, je l'aime bien cette bataille.
Ok, Léandra, et toi?
Ah bah pareil, moi je trouve ça marrant que ils finissent par traverser la rosace et puis tomber sur le parvis là. Enfin voilà, c'est très
oui, ça, ça,
voilà c'est vraiment marrant quoi. Enfin on voit qu'ils s'amusent en fait dans les scènes de bataille et qu'ils en font des caisses, mais c'est ça qui est drôle quoi.
Mon cœur d'archéologue saigne, ils ont pété la rosace, bande de vandales.
Ils auraient pu péter la flèche, hein, comme ça aurait fait un truc un petit peu prémonitoire comme ça.
Ah non, la flèche faut la garder, on en aura besoin quand on parlera des trois mousquetaires de Paul Anderson, hein.
Ah bon.
Encore des histoires de trucs qui s'enfilent. Hein. Non mais vraiment cette scène d'intro, tu vois, quitte à la limite la première intro avec Frankenstein, j'ai presque envie de dire elle est sérieuse.
Elle est sage à côté, ouais.
Là, t'as envie de dire, les mecs, je sais pas ce qu'ils avaient pris, de l'alcool, de la drogue, je sais pas. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire n'importe quoi et vas-y, le lance-grappin à travers le corps de Hyde. Tu crois l'autre qui va le tirer, oups, ça marche pas. Allez, retour ouais. À la case départ. Les mecs qui se passent l'un sur l'autre qui remonte, l'autre qui descend. C'est un peu n'importe nawak.
Mais ça passe.
Ouais, c'est n'importe quoi, mais c'est fun.
Oui, c'est ça.
Tu sens que les mecs, ils se sont amusés à écrire ça. Alors oui, c'est pas cohérent, c'est pas logique, c'est n'importe quoi, mais ouais, tu t'es fait plaisir, là. C'est tellement fun. Moi, j'adore cette intro. Bon, qui termine un peu de manière tragique, hein, ne nous mentons pas, hein. Plus dur sera la chute, hein.
Est-ce qu'il a fait aïe dans ton banc?
Oh, oh, joli.
Moi, ce que j'aime bien dans cette petite bataille, c'est que t'es un peu James Bond avec tout un tas de gadgets étranges et variés pour combattre les monstres.
D'ailleurs, ouais, le côté de James Bond, il va se renforcer après, hein, quand il est au Vatican.
Oui. Donc, je trouve ça vraiment sympa. On est vraiment Là, on dit vraiment aux gens, c'est bon, les gars. Là, on est là pour s'amuser, en fait. On n'est plus, on est dans ce ton un peu, bah, on est dans de l'aventure humour, quoi. On n'est plus dans de l'aventure forcément très très sérieuse et premier degré, hein. Et on va bien s'amuser. Oui, moi j'aime bien effectivement quand il le fait tomber, il lui met le grappin il lance son grappin pour se retenir, qui traverse Hyde. Et puis t'as Hyde qui court de l'autre côté pour le remonter, sauf que Hyde est tellement intelligent qu'il se prend les pieds sur le bord et il tombe de l'autre côté. Toi t'es là, sérieux quoi les gars? Il regarde même pas ce qu'il fait, il se casse la gueule de la tour quoi.
En même temps, il fait nuit, hein, c'est pas facile à voir en marche.
Donc voilà, donc non, moi, cette intro me fait bien marrer. Et sans, donc, ce qui finit par effectivement que Van Helsing arrive à tuer Hyde, hein, avec un Jekyll qui reprend conscience de lui-même juste avant de s'écraser au sol, quoi. Et là, bizarrement, il y a plein de monde.
Oui, alors que c'est tout vide avant.
Le plan d'avant, il n'y a pas un clampin dans Paris. Là, bon, ok, ils ont fait un peu le boxon à Notre-Dame, ils ont fait sonner les cloches et tout ça. Mais là, d'un coup, il y a plein de monde.
Direct, il y a les gendarmes, il y a des passants.
D'ailleurs, moi, je m'étais posé une question très con, mais on voit le gendarme, mais l'uniforme est-il d'époque?
Oula. Et c'est ce que je me suis demandé aussi. Est-ce qu'ils avaient déjà le petit képi, tout ça?
Et je sais pas, hein. Je me rappelle plus, c'est quoi la date du film, enfin, du temps du film?
1887.
C'est possible, hein, mais c'est vrai que comme je ne m'y connais pas beaucoup en uniforme de cette époque. Et donc là, on fait appel au public. Si quelqu'un dans le public un jour écoute cette émission et a la réponse à cette question, vous pouvez nous l'envoyer. On vous remercie. Bon, en attendant, Van Helsing va partir expier ses crimes pour aller se confesser au Vatican, hein, parce que bon, bah voilà, c'est toujours le Vatican. Pourquoi? On sait pas. Si, on sait pourquoi, mais voilà. Et là, ça y est, on part dans un truc assez sympa quand on descend dans les sous-sols du Vatican. Il n'y a pas qu'une bibliothèque cachée là-bas, hein, visiblement. Il y a tout un labo. Et moi, c'est une scène que j'aime assez bien, qui est, je sais pas si on peut pas dire représentative de l'époque, mais en fait, dans les sous-sols du Vatican, bah oui, c'est le Vatican, t'as un cardinal, et puis t'as un musulman, t'as un bouddhiste, t'as plein de...
Ah oui, là.
T'as une espèce de melting pot comme ça, où... T'as l'impression qu'il y a une espèce de volonté universaliste de lutter contre le mal et que finalement, ta religion, ton machin, ça rend plus en compte. Alors, je sais pas si c'était un truc très américain à l'époque, hein, mais ouais, t'avais ce... Moi, j'aimais bien finalement ce petit côté, alors qu'il fait too much, hein, mais...
Ouais, ça fait un petit peu organisation mondiale, tout le monde essaye de lutter contre voilà, les forces du mal, quoi, donc...
En sachant que j'aimerais dire ça reste très occidental, hein. J'explique le terme occidental, hein, parce que t'as le monde musulman, t'as le monde asiatique, mais en fait tu sens les, enfin j'aime pas l'exprimer comme ça, les grandes civilisations, etc. Mais finalement tout ce qui pourrait être population autochtone aborigène, différentes populations africaines, tout ça, en fait ça marche sur un peu les grands monothéistes, choses comme ça, mais finalement bah c'est ça.
Parce que c'est aussi ça, leur vision du bien, du bon. C'est un dieu unique avec... bon, après, oui, les bouddhistes, alors je suis pas une pro en bouddhisme, mais c'est quoi, c'est un... Pareil, est-ce que c'est une divinité unique
et... Ouais, mais voilà, ça... Alors après, est-ce que c'est parce que aussi visuellement, ça parle aux gens?
Oui, moi je pense que c'est une question
oui,
de
voilà,
représentation visuelle. Ouais. Hein, c'est facile, ouais, de repérer un bouddhiste, le crâne chauve et la toge orange-rouge. Là, c'est plutôt facile à repérer.
C'est ça. En quelques secondes, faire passer un message, voilà, un truc assez percutant.
Voilà, c'est que là, sous le Vatican, il y a des gens de partout sur la planète qui se retrouvent pour lutter contre le mal, avec un grand M.
Ta-ta-ta!
Voilà, et c'est là qu'on découvre que donc, bah en fait, c'est un peu la référence à James Bond, hein, où on a un espèce de Q qui s'appelle Carl et qui est joué donc par David Wenham.
C'est Kay.
QK. Et qui est un petit peu déluré et qui crée tout un tas d'armes et de gadgets en fait pour que Van Helsing puisse tranquillement lutter contre les forces du mal.
Les gadgets, on sait pas à quoi ça sert, mais ils sont là.
Même lui ne sait pas à quoi ça sert.
Il sait ce que ça fait, mais il sait pas à quoi ça sert.
Voilà, exactement, c'est ce qu'il dit. Voilà.
Mais on sait déjà que ça servira dans le film en temps voulu.
Fusil de Tchekhov !
Oui, et fusil de Tchekhov, pas subtil, pas subtil, pas subtil.
Non, pas du tout.
Mais il a les meilleurs punchlines du film.
Ah oui, c'est vrai qu'il est bien marrant, ce personnage.
Oui. Oui, oui, bah c'est voilà, c'est l'élément comique comme dans La Momie, on avait comment il s'appelle le frangin qui est joué par Jonathan qui est l'élément comique, voilà. Sauf que là, c'est encore pire dans la caricature du rigolo, quoi. Mais on aime beaucoup Carl. Donc voilà, donc il est donc au Vatican et on lui confie une nouvelle mission, qui va être de partir en Transylvanie pour aider la famille Valerius à lutter contre Dracula, parce que donc le père Valerius a disparu depuis un an et ses deux enfants qui lui restent, Velkan et Anna, ne s'en sortent visiblement pas contre Dracula, prince des ténèbres. Et que le problème, c'est que si ces deux-là meurent, toute la famille Valerius ne pourra pas monter au paradis.
C'est triste.
C'est triste.
Or, ça fait 9 générations que les mecs ils se font désinguer par Dracula et ça serait un petit peu con d'empêcher tous ces gens-là de monter au paradis.
Il commence à y avoir du monde au portillon, hein.
Ouais, bah ouais, Saint-Pierre, il est pas cool quand même, hein.
Bah non.
Relou, va.
C'est un infâme procédurier, c'est tout, hein.
Voilà, c'est ça. Et donc, histoire de renforcer un peu la tension, le père Valerius avait envoyé un petit bout de je sais pas quoi, de tapisserie, un rouleau, sur lequel il y a un petit bout de texte. Et sur ce petit bout de texte, il y a également un symbole qui est le même symbole que porte Van Helsing sur une de ses bagues. Parce que Van Helsing, a perdu sa mémoire.
Ouais.
Ta gueule, c'est magique, c'est bien pour le scénario.
Oh ouais, c'est ça.
Voilà, ouais.
C'est vrai que tout l'historique de Van Helsing, c'est un peu particulier quand même dans ce film, ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Mais bon, c'est marrant.
Ouais, ça fait un petit peu ta gueule, c'est magique, on avait besoin de ça pour le scénario, en fait.
Ouais, c'est ça.
Puis c'est son petit côté Marissou aussi. C'est le héros, et voilà, on lui colle un petit peu. Du coup, toutes les étiquettes.
Mais je pense que c'est pas le pire bidouillage de scénario. On reviendra sur l'histoire des loups-garous et tout ça, parce que je crois que ça, c'est le pire.
Ah là,
je crois que ils sont pas... Bref.
Mais c'est pour... J'ai l'impression que c'est pour le torturer un petit peu, en fait. Ce Van Helsing, là, il est vraiment très, très torturé, et donc on le torture encore plus en lui faisant perdre la mémoire, voilà, par rapport aux autres personnages, quoi.
Oui, il faut... En fait, on a l'impression que, oui, c'est une âme en peine, en fait, ou... Oui, ok, je tue plein de monstres, mais en fait, moi, ça me fait pas plaisir de tuer des monstres, hein.
Ouais, ouais.
D'un autre côté, je trouve qu'il le vit plutôt bien.
Bah, il se laisse porter, hein.
C'est ça, il dit, bon, bah, écoutez, hein, j'ai pas le choix, de toute façon.
Faut bien que quelqu'un le fasse.
Et puis, je vois du pays, comme ça.
Et puis, bon, quand il a vu la photo d'Alana, il s'est dit, ah,
je voudrais revenir sur le photomontage bidouillé. De l'image de Vlad Tepes avec le visage de Richard Augsburg.
C'est vrai.
Je crois que même un stagiaire Photoshop fait mieux, quoi.
Je me rappelais pas de ça, tiens. J'ai pas fait gaffe. Mais critique pas mon Richard, il est toujours parfait, Richard.
Kof. Je critique pas, c'est le photomontage que je critique.
J'avais pas fait gaffe, faudra que je retourne voir, tiens. Ah si.
Tu vois la tronche de Vlad avec sa grosse moustache, tout. Bah là non, c'est juste la tête de Richard Augsburg qui est posée avec la chevelure de Vlad autour. Je sais pas ce qu'ils ont. À la limite, ils auraient dû refaire totalement le portrait. Voilà, avec des traits un peu plus ressemblants de Richard Augsburg, mais tu sens qu'ils ont un peu fait ça en quatrième vitesse. Vite, allez, on va incruster la photo là.
Ils avaient plus de budget effets spéciaux, donc.
Ils avaient plus de budget, voilà. Ils pouvaient pas payer le stagiaire, donc.
Voilà, et on peut aussi parler de la photo de Anna, hein, donc qui est jouée par Kate Beckinsale. Qui, tu la regardes la photo, tu regardes d'après dans le film, tu fais. Il s'est passé quoi entre les deux, en fait? Non mais c'est vrai, elle a pas,
elle a tout, surtout retrouvé le fer à friser, en fait.
Ouais, entre temps, parce que.
Ouais, c'est ça. Elle venait de se lever, peut-être. Elle était pas encore permanentée.
Elle était pas fraîche pour la photo.
Ouais.
Donc voilà, donc bon voilà, oh là là, elle est quand même bien jolie cette petite dame, on va peut-être aller l'aider quand même.
Ouais. Elle a besoin d'aide, oui c'est vrai.
Damoiselle en détresse.
Les hommes sont toujours prompts à aider quand on n'est pas trop moche.
Accompagnée de Karl qui n'a absolument pas envie de venir en Transylvanie. Ah mais moi je veux pas aller sur le terrain.
Il se fait embarquer là.
Mais bon, il a une connaissance de vampire et j'aime bien quand il lui fait son sac à dos. Allez, je te mets un peu d'ail, un peu, je te mets de pieux, je te mets un petit peu d'eau bénite. Oh bah tiens, t'as vu ma grosse arbalète là? Bah tiens, je te mets ma grosse arbalète aussi. Ça tire des gros dards, c'est bien. Voilà, et donc il part avec donc Van Helsing et Karl partent en Transylvanie. Et donc là, on a un gros plan Seigneur des Anneaux. Avec les magnifiques décors, les deux petits personnages qu'on voit se balader avec des grands décors. Le Seigneur des Anneaux est passé par là. Tout le monde fait ça depuis.
Eh oui. Et d'ailleurs, en parlant des lieux de tournage, ça a été tourné en Transylvanie ou...
République tchèque.
République tchèque, ok.
Prague, c'est bien.
Ouais, c'est vrai.
D'ailleurs, on est passé directement au Vatican, mais il y a une scène avant avec Velkan et Anna.
Non, c'est après le Vatican, Velkan.
C'est après, je crois, ouais.
Ouais, non, c'est juste après.
Voilà, c'est après, je crois que c'est vrai que c'est avant.
Ouais, parce qu'on voit d'abord leurs photos et après, on les voit
en action.
Et donc, après avoir introduit le Monsterverse, après avoir introduit Van Helsing, nous introduisons les Valerius. Et donc, nous avons un charmant jeune homme attaché à un poteau.
Oui, c'est charmant. Je sais pas si on trouve ça à tous les coins de rue en Transylvanie.
Pourquoi tu crois que je me promène la nuit dans les bois? J'ai espoir, hein.
Bah écoute, hein, tu nous raconteras si tu tombes dessus.
Hein. Oh non, je vous raconterai pas, parce que ça ne vous regardera pas.
Ouais, faut partager avec tes copines un peu.
Partager quoi?
Le coin aux champignons.
Voilà.
Voilà.
Donc il y a un gars sur un poteau qui attend tranquillement. On se doute qu'il attend visiblement une grosse bête, parce que voilà.
Il attend un mec à poil.
Littéralement.
Oui. C'est magnifique. En réalité, il sert d'appât pour attirer un loup-garou. Alors, que pensez-vous de l'aspect des loups-garous dans ce Van Helsing?
Ils ont les oreilles bien tendues, bien dressées.
C'est pas le pire loup-garou que j'ai eu l'occasion de voir. Et j'aime assez le côté « je déchire ma peau pour faire apparaître ma deuxième identité ». Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs.
Ouais. Léandra ?
Ah oui, pareil. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits, en fait, dans ce film. Ils sont hyper agressifs et tout. Enfin, je les trouve vachement mieux que, par exemple, ceux d'Underworld, par exemple. Où je trouve qu'ils sont... Alors, ils sont faits... ils sont... Enfin, voilà. Je sais pas. Je les trouve vraiment bien.
Ou Lupin d'Harry Potter.
Ouais. Oh,
qui manque un peu de poils.
Ah là là, c'est vrai. Oui, effectivement.
Oui, mais dans Harry Potter, on peut toujours dire qu'il a pris sa potion. Il a quand même un peu de la potion qui l'aide pas, quoi.
Ouais, mais bon, de là à lui retirer tous ses poils. En fait, je pense que tout le budget du film Van Helsing est passé dans la création des loups-garous.
Là, il y a de la fourrure, quoi.
Ouais.
Moi, j'aime la fourrure, en fait. Donc...
Alors, moi, je vais partager votre opinion. Moi, étant grande fan de loups-garous, je suis ravie de voir des bons gros loups-garous, toutes quenottes dehors, et tout ça. Personnellement, je suis pas hyper fan de la transformation. Je conçois que c'est une transformation assez originale et qui rejoint un peu le loup-garou de Londres, hein, où il y a, pour ceux qui l'ont vu, hein, où il y a cette sortie de l'intérieur comme ça. Après, moi, je suis pas fan. Moi, j'aime vraiment bien la transformation avec la déformation des corps, hein, plus que ça. Mais faut avouer que c'est une vision sympa, surtout que il y a des variantes de loup-garou où justement tu mets une peau de loup en fait à ce changement de peau, quoi. Donc c'était plutôt intéressant. Bon, après niveau effets spéciaux, la transformation de Velkan plus tard, elle craint un peu du boudin.
Je dirais que l'acteur qui fait Velkan craint du boudin un petit peu.
Ta gueule, il est mignon. C'est tout ce qu'on lui demande.
Oui, alors il est mignon. Ça, je pense qu'on l'a pris uniquement pour ça, hein, dans ce film. Mais...
Alors, Velkan, l'acteur, est un danseur à la base.
Oui, bah, je comprends, oui. C'est pour son corps qu'on l'a pris, quoi.
Oh, oui. Et probablement qu'il allait pouvoir assurer un aspect peut-être un peu plus physique, hein, comme justement dans cette scène, etc. Mais voilà, le mec est danseur, donc forcément... Alors, pour revenir sur les loups-garous, moi, il y a un truc aussi que je trouve pas mal, c'est qu'on voit trois loups-garous, en fait, au final, et les trois sont différents.
Ouais, ouais. C'est vrai.
C'est vrai.
C'est pas déconnant. Bon, évidemment, on dira pas que c'est le tout dernier loup-garou qu'on voit, qu'il est grand,
il est noir,
il est fort, il est bien musculeux, il est tout noir, bienvenu, parce que, bah, voilà, quoi. Bon, on peut spoiler, on s'en fout, c'est le héros, donc forcément... Oui.
Et c'est le moins flippant des trois, visuellement, forcément, vu que c'est le héros. Il a presque l'air gentil, quand il...
À la fin, oui, oui.
Genre, je te griffe le mur, je vais te buter. Ouais, je suis gentil.
Oui, mais il le griffe avec amour.
Voilà, donc c'était le petit point loup-garou. Donc si on continue, donc en fait c'est la famille Valerius qui essaye de capturer ce loup-garou, qui visiblement dans l'histoire sont des sbires de Dracula. Ok, why not. Ils essayent de le capturer et bah c'est un epic fail. Il se rate.
On tient quand même à signaler le super ralenti avec le beau plan fessier sur Kate Beckinsale, avec ce beau retourné,
Oh, cette introduction Mel Gaze. Oh là là.
Ah oui, non mais...
Ouais.
Bah, la porte du moulin, faut bien, bien insister dessus. Hein.
Pour ceux qui n'ont pas vu le film, l'introduction de Kate Beckinsale dans l'histoire, c'est en fait, t'as une caméra qui monte, disons, de l'arrière de ses genoux en passant par son cul, en arrivant après sur son visage, parce qu'elle se tourne, évidemment. Mais voilà, donc la première chose qu'on voit d'elle en action, entre guillemets, c'est son cul, quoi. Que plus Mel Guest, tu meurs. C'est tellement cliché, ah bah. En plus, c'est tellement le retourné cliché, machin. Oui, on se demande déjà pourquoi elle regarde pas la scène de base, en fait. Coucou, ton frère, il est en train de servir d'appât pour se faire manger. Mais non, je ne regarde pas. Je ne guette pas.
Bon, après, j'ai envie de dire, la première chose qu'on voit de son frère, c'est qu'il est torse nu.
Non, il est pas torse nu. Il a une petite chemise.
Non, il est pas torse nu.
Il est pas torse nu quand il est attaché? Ah? Ah, je l'ai imaginé alors, pardon.
Ah bah oui, forcément. Mais non.
Plus tard, on profitera de son corps, mais...
C'est vrai. Bon, alors j'ai rien dit, non.
Voilà, donc la capture est un epic fail, donc non seulement il ne capture pas le loup-garou, mais qui doit quand même mourir parce qu'il se prend une balle, dans la tronche et on ne le revoit plus après. Et Velkan tombe d'une falaise, parce que d'un coup, il y a une grande falaise qui est sortie comme ça d'on ne sait trop où.
C'est triste.
Et là, on louera aussi l'intelligence de faire un piège pas très loin d'une falaise et que Anna Valerius court pile vers la falaise, tu vois. Quand on traque une bête, on sait d'à peu près dans quel environnement on est, quoi.
À force, ils doivent être un peu dégénérés, hein, depuis toutes ces générations.
Voilà, donc on perd Velkan. Velkan meurt en sauvant sa sœur pour pas qu'elle se fasse bouffer par le loup-garou. Tout le monde tombe... le loup-garou et Velkan tombent par la falaise. Et là, on a petite instant triste de Anna Valerius, Seigneur, aidez-nous.
Avec la petite larme à l'œil.
Et là, Seigneur, aidez-nous. Oh, bah tiens, gros plan sur Van Helsing.
Oh, que c'est subtil.
Et donc, Van Helsing et Carl arrivent en Transylvanie, où ils sont fraîchement accueillis dans le petit village. Avec une populace très sympathique.
Il y a un personnage dont on n'a pas parlé, c'est le croque-mort.
Le croque-mort, oui.
Parce qu'en fait, on le voit dès le début du film, lors de l'attaque du château de Frankenstein. Et puis, il revient comme ça régulièrement. Et en fait, il est plutôt... il n'est pas important, mais il est plutôt marrant, ce personnage. Et un petit peu, c'est un petit peu un fil rouge tout le long du film. Bon, jusqu'à ce qu'il se fasse buter, mais...
Il finit bien, moi je trouve qu'il finit très bien.
Bah, il finit bien pour un croque-mort.
Oui, c'est sa mort est très drôle et très bien chorégraphiée pour le coup, on rigole bien.
Oui.
Ça, on dirait un peu un chapelier fou qui aurait raté sa vie.
Avec les cheveux de Lucius Malfoy.
C'est pas faux. Donc bon, ils sont fraîchement accueillis. On sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Bon, il y a deux gars qui se pointent, la population arrive avec les haches et les fourches.
Bah, c'est les gros racistes. Hein.
Le marteau et la faucille, pardon. Bon, niveau notation touristique sur TripAdvisor, ça va pas être cool, quoi, mon avis. Mais bon, Anna Valerius, qui évidemment est en ville, c'est pas trop pourquoi, n'est pas très contente de voir ses deux clampins arriver non plus. Elle aime pas trop les étrangers non plus.
Ah oui, elle le dit, ouais.
Et là, le deuxième plan qu'on voit d'elle, quand même, c'est ses talons de 20 cm.
Au-dessus d'un puits, au-dessus d'un trou.
Oui. Et donc, tu comprends finalement pourquoi elle se casse tout le temps la figure quand t'es court.
Le costume.
Parce que c'est pas possible de combattre des vampires et des loups-garous avec un corps, avec un serre-taille qui t'empêche de respirer et des talons de 20 cm, quoi. Je sais pas où ils sont allés chercher ça.
T'as pas compris, les talons de 20 cm, c'est pour stocker des pieux dedans pour s'en servir. Mais elle a pas compris non plus, en fait.
Non, elle a pas compris. Non, à moins que ça aurait servi à quelque chose dans ce cas-là.
Ça aurait été marrant, hein. Ça serait marrant, en fait, hein.
Ben oui. Autant que ça serve à... Voilà, que ça serve de scénario.
Allô, bonjour les scénaristes, je vous propose un truc super original. Vous prenez une meuf avec des grands talons, elle se sert de ses talons comme pieux. Merci, je vous en prie. Léandra, tu veux dire quelque chose?
Bah déjà, elle est en pantalon, hein, donc c'est déjà quelque chose, voilà.
C'est un progrès. Moulant, mais c'est un progrès.
Moulant, ah bah oui, parce que bon, quitte à ce qu'elle soit en pantalon, autant que ça soit bien moulant quand même.
Bah, tant qu'à faire.
Surtout pour un plan qui va venir pendant la baston suivante. Plan...
Oui.
Donc, ils sont bien accueillis par Anna Valerius, et comme il manquait encore du monde à la fiesta, les trois femmes vampires arrivent. Parce que, quitte à accueillir un étranger, autant tous participer, hein. Donc, la population prend peur et va se cacher, et Anna Valerius essaye de se cacher aussi, parce que visiblement, les trois gonzesses en ont après elle. Je sais pas trop pourquoi, mais why not?
C'est vrai que c'est jamais vraiment expliqué pourquoi... C'était un peu cette obsession pour elle.
Bah, c'est parce que c'est la dernière de sa lignée, donc elle veut
la zigouiller.
La tuer, en fait. Je pense que c'est ça. Hein. Mais bon, forcément.
Bah, oui, il n'y en avait pas une qui sort à un moment. C'est de boire ton sang m'aidera à rester...
jeune et jolie aussi.
Ouais, voilà.
Éternellement jeune, ouais.
Ouais, il y a des histoires de succion de sang un peu chelou, hein, quelques pulsions cachées.
Forcément, c'est des trucs entre filles, quoi. Parce que bon, c'est.
Quelques frustrations non assouvies. Voilà, et donc va s'en suivre une bataille dans le village. Avec des effets spéciaux quand même un peu limites, hein. Les femmes de Dracula au niveau des effets spéciaux.
Il y a des moments, ça a pas bien vieilli.
Moi, j'aime bien le côté les costumes qui deviennent aussi des parties du corps des créatures, hein. Les grands pans qui font les grandes ailes, c'est pas mal. Il y a de l'idée, mais je trouve qu'au niveau des effets spéciaux, ça passe très très mal, hein. Ça, en plus, ça a très très mal vieilli pour le coup, hein.
Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais adoré cette scène parce que justement, je trouvais ça hyper sympa comment elle se transformait et tout. Mais bon, c'est vrai que ça vieillit quand même très mal, quoi.
Des bonnes idées, mais malheureusement, bah, les effets spéciaux de l'époque, hein, on reste en 2003, hein, ça reste le... Enfin, on est déjà plus dans les tout débuts du numérique, hein, mais on reste quand même encore dans quelque chose d'assez novateur, quoi. Donc, cette bataille dans le village, vous en pensez quoi ?
La vache, elle est pas morte !
Ah oui !
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le meilleur point de la bataille.
La vache !
La pauvre vache ! Elle a rien fait pour mériter ça !
Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la scène que Van Helsing, il s'est très mal tiré son pieu ?
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Il en fout un petit peu partout, hein !
En fait, au début, il sait pas s'en servir. Hein.
Non, mais ce qui est hyper rigolo, c'est qu'à un moment, Anna Valerius Elcourt est à la femme vampire qui la poursuit, et l'autre, il tire des fléchettes, et jamais il touche Anna, quoi !
Ah oui, ah oui. Pourtant, il y a une pute fléchette à ce moment-là, oui.
Ouais, ouais, il y a de la fléchette. Tu fais, mais attends, tu te sens pas bien, toi, là ?
Ah non, mais il tire de partout, il rate tous ses coups, sauf à la fin, quand il faut, quoi.
Ah bah, j'ai envie de dire, il rate pas la vache dans le corridor, mais pas loin, parce qu'en fait, il arrive juste à toucher sa cible, quand sa cible, bah en fait, elle est nez à nez avec lui, quoi. Là, moi, franchement, j'aime bien cette scène de bataille, elle est plutôt sympa, malgré quelques défauts. On voit que quand même, Anna Valerius se défend comme elle peut, hein, parce qu'elle a quand même trois créatures fantastiques qui essayent de la capturer, hein. Elle a certaines compétences, comme celle de sauter à la renverse et de descendre contre un arbre tête en bas. Peut-être un peu de citelle torchepeau dans le sang, je sais pas. Pour information, la citelle torchepeau, c'est un petit oiseau qui descend le long des arbres la tête en bas. C'est le seul qui fait ça. Hein. Oui, la scène où elle se retrouve l'entrejambe au-dessus du nez de Van Helsing aussi.
Il fallait oser.
Il fallait oser, hein, la connotation à mon... J'espère qu'elle avait pris une douche avant, que ça sentait pas trop le schnouf. La gênance de cette scène.
Vu comme elle prend soin de ses cheveux, on peut espérer qu'elle prend soin du reste. Hein.
Mais la gênance de cette scène, quand même. Oh, ça fait partie du côté humoristique. Alors, humoristique un peu graveleux, masculin, de balle, hein, on va pas se mentir, mais tout est drôle. C'est comme un moment, Carl qui lance un truc à Van Helsing, t'as la vampire qui arrive et qui balance dans le puits, genre rien à foutre. Ça, finalement, c'est assez drôle. En fait, il y a beaucoup de choses drôles dans cette scène aussi. Et c'est peut-être un défaut du film. Enfin, moi, j'adore, mais en fait, il y a de l'humour absolument tout le temps. L'humour, il est pas bien dosé, parce qu'il y en a sans arrêt. C'est pas de manière ponctuelle, tu vois. Tu sens que les mecs, ils ont envie de se faire plaisir et qu'ils mettent tout, voilà.
C'est que le film se prend pas au sérieux, mais en fait, parfois, on a le doute. Est-ce que c'est volontaire ou pas, le fait que ce soit drôle ?
Est-ce que, en fait, à vouloir mettre trop d'humour pour X ou Y réseau, en fait, trop d'humour tue l'humour. Et puis, il y a toujours, quand c'est l'humour de situation et l'humour des personnages, tu vois, parce que Carl, on a dit, c'est l'élément comique, mais Van Helsing, il fait aussi des blagues. On va pas reparler de Dracula qui cabotine à mort dans tous les sens, absolument sans arrêt. Même les épouses, finalement, de Dracula, elles ont des côtés très excessifs. Finalement, t'as de l'humour de manière très différente, mais t'as trop, en fait. À croire que les mecs, ils ont écrit le scénar, ils étaient beurrés, quoi.
Je sais plus quel personnage, à un moment, perd un bras. Je crois que c'est Carl qui lui fait « Oh, bah, le bras t'en tombe ».
Ah bah c'est avec Dr. Jekyll.
Ouais. C'est au début, alors, c'est au tout début du film.
C'est possible, ouais.
C'est Van Helsing qui lui dit ça.
Ah, ouais. C'est Van Helsing. Oui, c'est ça. Donc c'était pas Carl. Voilà, donc c'est voilà, pareil, humour, le genre d'humour ouais. De Van Helsing.
Mais même là, dans cette scène à la fin, quand il tue une des épouses, là, enfin là, sa mort, c'est too much. C'est vraiment voilà, enfin.
Donc elle se fait en pioter en long l'argent transverse par enfin l'arbalète où il arrive à tirer dessus avec. Hein. devant son nez. Et là, en fait, elle passe littéralement une dizaine de secondes à se décomposer en poussière, hein, avec l'obsession pour les mâchoires qui se décrochent de Stephen Summers.
Ah oui, on n'a pas parlé des mâchoires, mais oui, c'est vrai que...
Oui.
Ça, j'aime bien ce qui... Enfin, voilà, il l'a mis dans La Momie, il le remet dans ce film-là. Je trouve que c'est... Voilà, c'est...
Oui, mais il le met trop dans ce film-là. Je pense qu'il le fait un bon paquet... Enfin, j'ai pas compté parce que je suis pas là pour compter non plus, mais il y a un bon paquet de fois où il y a ce décrochement de mâchoires...
Bah, rien que les mâchoires des vampires qui s'apprêtent à mordre.
Oui, dès qu'elles ouvrent la bouche, quasiment.
Elles sont presque déjà en train... Voilà, déjà, elles sont en train de se décrocher. Donc,
ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc ils arrivent à quand même tuer une femme vampire. Ce qui brise le petit cœur de Dracula.
Notre drama queen.
Voilà. Donc là, effectivement, nous avons une grande scène de Richard Roxburgh en mode drama queen. Ils ont tué ma femme.
Moi, je comprends pas cette scène. Le cercueil, pourquoi ? En fait, il sort d'un cercueil et c'est, on dirait qu'il y a du verre, en fait, qui traverse du verre, ou de la glace, enfin...
C'est de la glace. Enfin, moi, je dirais que c'est de la glace, ouais. Bon, parce que le froid, ça conserve.
Bah, peut-être.
C'est un cercueil frigo.
C'est en lien avec son château de glace, là, un peu...
Ouais, le miroir, je pense que c'est lié à ça. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre, ouais.
Ouais, c'est dans une sorte de monde parallèle quelque part, donc peut-être quand il dort, il dort dans ce monde-là et il est obligé de repasser le miroir pour revenir à la réalité.
J'explique qu'il soit froid.
Mais belle scène de drama queen. Et là, il y a quelque chose qu'on avait déjà vu dans l'introduction dont on n'a pas parlé, c'est que justement Richard Roxburgh n'a pas l'air vraiment touché par la gravité. On le voit monter le long des murs. Et la tête en bas, ah, ça n'a jamais l'air de le gêner, en fait. Je trouve que c'est hyper intéressant, en fait. On voit qu'il est... qu'il maîtrise toutes les dimensions, en fait.
Oui, bah là, cette scène, elle est à l'envers. Ça ne sert à rien, mais c'est juste hyper cool. Moi, je trouve ça...
C'est ça. Je suis entièrement d'accord.
Très drôle d'avoir les deux femmes qui sont à l'envers, avec tout leur drapé là, qui retombe, leur chevelure qui retombe, et lui qui vient les voir à l'envers aussi. Enfin,
Le côté chauve-souris.
Bah oui, c'est ça, c'est le côté chauve-souris.
Oui, oui, et la scène est vraiment bien faite, parce que pour une fois, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait... bon, on va faire on va juste faire marcher la personne et puis mettre le décor à l'envers, parce qu'il a vraiment les cheveux qui retombent. Donc je pense qu'ils l'ont... Il faudrait que je revoie les making-of et tout, mais je pense qu'ils l'ont vraiment mis la tête en bas, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc ensuite, on retourne... Bon, après, ouais, effectivement, le côté très drama queen, ouin-ouin, j'ai perdu une femme... Ouais, mais en fait, j'ai pas de cœur, les filles.
Oh, c'est pas grave, je vous en prendrai une autre, vous inquiétez pas.
Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Il dit, ah bah bon, je vais en prendre une autre.
C'est vrai que les deux autres femmes ont l'air très peinées aussi, hein. C'est bien, elles s'entendent bien entre elles.
Ouais, elles sont peinées.
Bah oui.
Bah, au moins, elles ont perdu une copine, et puis l'autre, il fait, ah, c'est bon, je prendrai une autre femme.
Oui, ben voilà, hein. Un mec, quoi.
Donc, on se retrouve ensuite encore avec Van Helsing et Anna Valerius, donc dans le château familial des Valerius. Hein.
Qui est assez joli, d'ailleurs. Je me demande où ils ont tourné la scène, s'ils ont tourné ça dans un vrai château, ou si c'est des décors en studio.
Alors, celle-là, je ne saurais pas répondre.
Je trouve que le décor est assez, ouais. Est assez sympa.
Ouais, ouais, ouais. Donc bon, il papote un petit peu sur qui est Van Helsing, un saint ou un assassin.
Ça se tourne autour, ça se chipote, cette scène.
Ouais, cool. Voilà.
Un assassin.
Ah, ah, ah.
Plan nichon ? Non, pardon.
Ouais, Kate Beckinsale, on n'est pas loin d'avoir du plan nichon régulièrement, mais...
Et encore à la chemisier, hein, on n'a pas un décolleté trop plongeant.
Non, ça va, c'est tout à fait correct.
Ça va encore.
Parce que je pense que le film devait être classé tout public, donc on pouvait pas mettre trop... On fait déjà une introduction avec un plan cul, on pouvait pas trop faire de plan nichon, je pense, pour que ça reste tout public, en fait. Van Helsing dit qu'il va aller trouver Dracula pour le dézinguer, hein.
C'est pour ça qu'il est là.
Et il finit par la droguer, quand même.
Oui, elle lui dit qu'elle va venir avec lui. Il lui dit non, parce que son but, c'est quand même, lui, de la protéger, elle, pour pas qu'ils se retrouvent tous coincés chez Saint-Pierre, là. Sauf qu'elle, bah attends, c'est bon, moi, ça fait des générations que ma famille, on traque Dracula, on s'y connaît un peu, quoi. Il lui dit oui, ok, d'accord. Il la drogue, il l'endort, pour pouvoir partir faire ses petites affaires.
Titre,
En même temps, elle parlait tout le temps. Oui, mais moi, je peux me débrouiller toute seule. Laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé. Alors, à un moment, ça va bien.
Alors, je voudrais quand même pas dire, mais là, on rentre dans des scènes alors qui peuvent être rigolotes, parce qu'il y aura la scène du croque-mort, il y a le loup-garou, tout ça, mais je trouve que c'est une partie du film qui est un peu chiante, en fait.
Ouais.
C'est pas...
C'est vrai que comme ça, c'est celle dont je me souviens le moins, je crois, ouais.
Parce qu'en fait, tout ça, ça va être... Enfin, le loup-garou, Velkan, c'est pour faire un peu du drama, parce que du coup, Velkan revient en loup-garou. C'est un peu pour faire du drama autour de Kate Beckinsale et Hugh Jackman, pour essayer de leur créer une sorte de lien. Vous avez voulu buter mon frère, mais oui, mais c'est plus votre frère, mais comment vous saviez ?
Alors, va pas trop vite dans l'histoire.
Ouais, mais en fait, c'est pas des trucs intéressants.
Bon, bah alors tais-toi. Quand Anna se réveille, eh ben, il fait nuit, et Van Helsing, eh ben, il s'est barré. Donc elle est pas contente, donc elle veut le rejoindre, sauf que elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui est rentré par la fenêtre.
Et que c'est la pleine lune, surtout.
Et que c'est la pleine lune, donc...
Ça tombe bien.
Pleine lune, il y a un truc qui est rentré par la fenêtre, moyen bof, quoi. Et donc elle prend une grosse masse en espérant taper sur un loup-garou comme ça, sait-on jamais, hein.
Des masses, paf.
Et là, jumpscare, elle tombe nez à nez avec son frangin. Oh, alléluia! Bah, il était où le frangin? Il était pas tombé d'une falaise? Voilà, en plus, bah, c'est là qu'on en profite, hein, parce qu'il est à moitié à Walp.
Pas là où on le voit le mieux, mais.
Non, mais il est déjà parti à Walp.
Ouais.
Et là, surprise!
Oh, bien, c'est pratique ce petit short pantalon qui repousse en même temps que le reste du corps.
Oui,
quand se transforme.
Je voulais en parler justement.
Nous allons découvrir à ce moment-là que donc Velkan, avant de tomber dans le trou, a été mordu par le loup-garou et donc est lui-même devenu un loup-garou. Et qu'en tant que loup-garou, il se retrouve aux ordres de Dracula. Alors pourquoi il lui obéit ? Aucune idée.
Ta gueule, c'est magique !
C'est pas plus con que dans Twilight, hein, la relation vampire-loup-garou.
Alors là, je te laisserai nous expliciter parce que je ne peux pas dire plus sur le sujet étant donné que je ne connais pas.
Bah, non, ce que je veux dire, c'est que dans Twilight, t'as les vampires et les loups-garous qui, eux, sont...
Mais ils s'affrontent.
Oui. Sont ennemis, oui, mais... on va dire. Mais ils s'affrontent, voilà, que là, pourquoi pas, Dracula est le seigneur du mal, donc il a un peu toutes les créatures maléfiques à son service.
Oui, mais Velkan, on voit bien qu'il a pas l'air très coopératif, donc en fait, c'est un petit peu... Bon, voilà. Et donc, bon, il prévient quand même sa sœur... Et qu'il existe aussi c'est à ce moment-là qu'il lui dit qu'il existe un antidote contre les loups-garous.
Ouais, il y a un antidote contre la maladie du loup-garou.
Ah bah c'est peut-être ça en fait.
Il essaye de lui dire en fait, mais il n'arrive pas. Et il se transforme juste avant de lui dire. Donc ça commence à
scénario.
Avec un jeu d'acteur fantastique.
C'est ça.
Et là en fait à ce moment-là, je sais pas ce qui est le plus douloureux, sa transformation ou son jeu d'acteur.
Ah, son jeu d'acteur, à 100%, ah, c'est cette scène.
Alors, pour lui, la transfo, et pour lui, le jeu d'acteur.
Oh là là.
Mais moi, j'aime beaucoup Velkan, hein. Il fait beaucoup de bien à mes yeux. Hein.
Ah oui, mais il faut pas l'écouter.
Non. Il faut pas trop regarder non plus, ça dépend quelle partie de son corps il faut regarder. Voilà, c'est un petit peu méchant, on le trash un peu, mais on l'aime bien quand même. Moi, j'aime bien les loups-garous, il fait un très bon loup-garou, donc on trash un peu, mais voilà.
Qui aime bien, châtie bien.
Donc, la blague, pourquoi ça chante le chien mouillé?
Ah oui, j'adore. J'adore quand il dit ça, Carl.
Parce que Carl arrive comme une fleur.
Merci, Carl, ouais.
Parce qu'évidemment, oui. Le Velkan se transforme, Van Helsing arrive, essaye de le flinguer, et Velkan s'enfuit, évidemment. Hein. Et Carl arrive comme une fleur, alors qu'il y a eu tout un tas de bordel. Pourquoi ça sent le chien mouillé? Bah, parce qu'il y avait un gros chien mouillé dans la pièce, quoi, mais... Voilà, donc Van Helsing et Anna poursuivent le loup-garou, hein, Van Helsing pour le flinguer et puis Anna pour parce que son frère. Première dispute conjugale aussi entre Van Helsing et Anna, hein, vu qu'elle se rend compte que Van Helsing savait très bien que c'était son frère, mais qu'il a essayé de le buter quand même, hein, alors qu'elle veut sauver son frère.
Ça commence bien les relations entre beaux-frères.
Ah, ça va être tendu du slip, hein.
Si tu commences à vouloir buter la famille.
Première rencontre avec mon beau-frère, ah, j'essaie de le tuer.
C'est un petit côté shakespearien, hein.
Oui, bah, il n'y a pas Kenneth Branagh dans l'affaire, mais...
Ken Beckinsale a joué dans des pièces de Shakespeare, hein, donc ça marche très bien.
Ah, bah
hein.
Voilà, tout est lié.
Oui, d'ailleurs, je me demande si un de ses premiers rôles, c'est pas dans Beaucoup de bruit pour rien, avec de Kenneth Branagh, justement.
Si, je crois bien aussi, je crois bien.
La boucle est bouclée, merci.
La boucle de cheveux.
Oui, donc là, c'est Yael, il y a la scène de baston aussi avec le croque-mort. Donc notre fameux croque-mort qui revient, qui prend les belles mesures de Jackman pour potentiellement le mettre au fond d'un cercueil.
Lucky Luke, pardon.
Oui,
on a tout pensé, je pense.
Effectivement.
Bon, et le pauvre croque-mort qui finit défoncé par le loup-garou et au fond d'une tombe. Il tombe raide, raide mort dans la tombe, et t'as son chapeau qui va se mettre sur la pelle.
Un petit côté Famille Adams à ce moment-là.
C'est encore la chute.
Oui, oui, donc après, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont chez Dracula, c'est ça, hein, après qu'ils ont essayé de buter le frangin, qu'ils n'ont pas réussi. On voit le frangin qui retourne chez Dracula. Ah oui, le frangin retourne chez Dracula en disant « J'ai dit à ma sœur qu'il y avait un antidote. » Dracula est là, ben, je m'en fous. Je m'en fous, je les attends, tes pecnos, là.
Cette scène est quand même sympa parce que du coup, on voit tout l'attirail, là, il commence à allumer la machine et tout. Enfin, ça fait très steampunk, quoi.
Ouais, alors ils sont de retour dans ils ont transporté le laboratoire de Frankenstein dans le château de Dracula. Parce que donc, en fait, la machine de Frankenstein et donc potentiellement doit servir à ressusciter tous les enfants morts de Dracula et de ses femmes. Alors, quand on dit enfants morts, je vous rassure, si vous faites des bébés comme ça...
Déjà, j'aimerais bien avoir plus d'explications sur leur mode de conception, parce que qu'est-ce que quoi ? Comment t'obtiens des espèces de gros bulbes dégueulasses, pleins de slime ?
Oui, et puis que tes petits enfants ne ressemblent à des petites gargouilles, en fait.
Oui.
Elles sont choupinettes, hein, mais
c'est la forme non humaine de leurs parents, en fait, hein.
Ouais, c'est pas faux.
Il y en a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors, même 3 femmes en 400 ans.
Ah bah, ils ont que ça à faire en même temps, hein.
Pas la télé à l'époque.
Peut-être qu'elles font des triplés à chaque fois, j'en sais rien. Comme les grenouilles, elles les font en chapelet, tu sais. Comme les crapauds, elles les font en chapelet.
Ah là là, ah, je veux pas savoir comment ils font ça.
Donc voilà, et donc en fait, parce que le but ultime de Dracula est en fait de ressusciter tous ces petits enfants morts et pour qu'ils puissent envahir le monde.
Il faut voir, Dracula, c'est un bon petit papa, quoi. Il est soucieux de la vie de ses enfants, quoi.
Ouais,
bon point, petit papa, quoi.
Pour l'instant, je parlerai pas de la vie de ses enfants, mais de la mort de ses enfants, mais... Voilà, et donc, il avait essayé de faire fonctionner la machine avec... Parce que visiblement, il y a besoin d'un catalyseur, hein, pour faire fonctionner la machine. Et donc, il avait essayé de faire fonctionner la machine en utilisant, le papa Valerius comme catalyseur.
Et on en parle...
Et là, il a fri.
Faut m'expliquer pourquoi, ça fait un an qu'il a disparu quand même. Pourquoi il y a toujours son cadavre fumant sur la machine ?
Parce qu'il l'a pas enlevé, il a eu la flemme.
Ouais, je pense que c'est ça.
Il a fri, il a tout compris. Donc voilà, et donc Dracula n'était pas satisfait par le résultat. Hein, parce qu'à mon avis, les petites poches de bébé, là, elles ont fait ploc, 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 ploc. Et ça a pas bien marché.
Comme du papier bulle.
Et donc, il compte utiliser Velkan avec son sang de loup-garou, sa puissance de loup-garou, pour faire fonctionner la machine, pour ressusciter tous ses petits-enfants bien gluants.
Alors, question scénario. Pourquoi est-ce que Dracula n'a pas essayé avec l'autre loup-garou qui a justement mis Velkan dans
gueule,
cet état ?
Ta gueule, c'est magique.
Parce que c'est la famille...
Valerius.
Il a peut-être le Valerius et du coup, ça, le sang est puissant.
Le sang est puissant.
Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Le sang est puissant.
Il aurait pu essayer avec ses gonzesses, hein.
Ouais, mais c'est pas des Valerius, je pense. Donc,
il aurait pu essayer sur lui-même, quelque part.
Bon, voilà, encore une histoire, un petit point scénario un petit peu... Oui, parce que c'est comme ça.
Un peu faible.
Et on parle des serviteurs de Dracula, là, les petits Ewoks qui se baladent.
Ah, les...
Allez, Uchini !
Les Dwergis, ça sort d'où, ça ?
Ils me font penser aux Ewoks, moi, je sais pas pourquoi.
Oui, voilà, donc ça aussi, ta gueule, c'est magique. Il y a des espèces de petits, je sais pas, gobelins, trolls, ou... Ouais, trucs avec plein de dents, qui servent Dracula comme des petits esclaves.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui, ça peut être des petits gobelins, des petites créatures souterraines qu'il a.
Voilà, avec Igor qui aide aussi.
C'est bien, il fait travailler toutes sortes de créatures.
C'est un employeur local.
Ouais, c'est ça, mais il y a plein de refs. Enfin, à un moment donné, on les voit, ils sont en train de se balader avec un câble et tout. Le bruitage et tout qu'il y a, en fait, ça ressemble vraiment aux Ewoks. Enfin, je trouve que, voilà, il y a plein de références dans ce film à plein d'autres films de SF.
Oui.
Et c'est ça que je trouve hyper fun. Moi, pour moi, ça, c'est une ref à Star Wars. Enfin, voilà, où il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein d'autres refs dans le film. Et je trouve ça super marrant, quoi.
Ouais, 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 il s'est fait plaisir. Donc, il colle Velkan sur la machine.
Et paf ! Ça fait des bébés.
Et donc, il lance la machine. Et donc, pendant que Anna et Van Helsing sont en train de rentrer dans le château et de se demander à quoi ressemble la progéniture de Dracula dans leurs espèces de petits sacs gluants, là, et ben boum, il y a tout plein de bébés qui émergent.
Ouais, c'est quand même une référence à Alien aussi, là.
Ah oui.
Enfin, clairement.
Oui.
Mmh. Ah oui.
Là.
Alors, on en parle quand même du château, qui est l'ancien château de Frankenstein. Ils ont ce château à genre de 10 minutes à pied de chez eux. Tiens, ouais, ce château, il a été abandonné il y a un an. Mais en même temps, on sait pas où se cache Dracula. Ce serait drôle que ce soit là qui se cache, en fait. Pourquoi on n'a pas été voir avant? Voilà.
Parce qu'il est censé être abandonné, et puis c'est tout.
Voilà.
Oui, c'est ça, ils disent.
Oui, mais ce que j'aime bien, c'est qu'au même moment, on voit plein de lumière par la fenêtre. Et ils se disent, tiens, peut-être qu'il y a quelqu'un, on va peut-être aller voir.
C'est les jeunes du village en train de fumer de la beuh, hein. Ouais, voilà. On sait, hein. Voilà. Ils font de l'urbex en fumant de la beuh, on va pas y aller, hein. Voilà, donc là, effectivement, on a une référence à Alien, hein, avec le bébé, là, avec Van Helsing qui essaye de voir le truc et puis qui va émerger, et puis le petit jumpscare avec le petit bébé derrière. Coucou ! Dégueu ! Donc, nous avons là une magnifique émergence de centaines de milliers de petites gargouilles, voilà, sous le regard attendri de deux mamans et un papa.
C'est beau.
Voilà. Et ils envoient donc leur magnifique petite progéniture aller bouffer au village, il y a de la bouffe.
Et il dit quand même, allez les bonnes femmes, allez leur montrer comment on chasse. Hein. Moi je m'en occupe pas.
Ouais, servez un peu à quelque chose, hein, à un moment.
C'est ça.
Attends, c'est un bon petit papa jusqu'à un certain point. Hein.
Vous les faites, vous les élevez. Hein.
Puis il a deux femmes. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est pas lui qui fait la cuisine, hein.
C'est pas ces femmes non plus qui font la cuisine. Par contre, on notera qu'ils épargnent la vache aussi, hein. La vache a l'air de survivre.
C'est elle, la véritable héroïne du film.
Faut refaire le film en version point de vue de la vache.
Ça serait marrant, ça. Donc, voilà. Donc, Anna et Van Helsing décident d'aller affronter Dracula quand même, hein. Le village, on s'en occupera après, hein.
Oh, ça va, c'est des pecnos, hein, on s'en fout. Hein.
Ouais, c'est les ploucs.
En plus, ils sont pas sympas avec les étrangers, donc... Hein.
C'est ça, on va pas s'en occuper. Donc, on a Anna qui essaye d'aller libérer son frère qui est en train de frire sur la planche de Dracula, là. Et Dracula qui va affronter Van Helsing.
Drama Queen, encore.
Et là, ouais, salut mon pote, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
Tu m'as bien planté, mec, hein. Tu m'as bien planté, hein, mais comment tu vas?
Salut, Gabriel.
Voilà, donc Dracula connaît visiblement Van Helsing depuis un moment.
Mais c'est pas réciproque.
Pas dans l'autre sens. Donc là, on a une scène un petit peu... Oh, tu te souviens pas qui je suis? Oh ouais, j'ai gros sacre. Vous en pensez quoi, vous, de cette séquence un petit peu... Rien, bon.
Bah, c'est ça. Je sais pas.
C'est ça, c'est...
Ok.
T'es aussi dubitatif que Van Helsing, tu regardes disant, qu'est-ce qu'il me raconte?
Bah, c'est un peu ça, en fait. Là, t'es un peu à la place de Van Helsing, quoi. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu te dis, bah, quoi? On a élevé des vaches ensemble, je m'en rappelle plus. Voilà.
Bon, après, tu te doutes, parce qu'à un moment, Van Helsing dit, oui, j'ai des souvenirs qui me reviennent, et l'un d'eux, c'est le siège de Rome en l'année, je sais plus, 200 et quelques. Donc, déjà, à ce moment-là, tu te dis, bon, ok, il est plus vieux qu'il en a l'air. Donc, finalement, cette scène-là, ça fait que renforcer, cette
idée.
Il y a
un truc qui va pas.
Qu'il est pas totalement humain.
Ouais. Il a perdu la mémoire, par contre, il se souvient d'avoir fait un siège en l'an 400 et des brouettes, hein.
Ouais, mais tu sais, c'est ça, les flashbacks. Ça vient, ça va.
Pourquoi pas, hein.
Mais c'est pas justement, il voit ça en rêve, je crois. C'est des...
Ouais, enfin, moi, je rêve que je vois des dinosaures la nuit, c'est pas pour autant que j'en croise dans la rue tous les 4 matins, hein. Non, mais là, ouais, c'est quand même un peu what the fuck.
Mais peut-être que tu es plus vieille que tu ne le crois et que tu as vécu avec des dinosaures. C'est possible.
Alors, moi, ce que je trouve très rigolo dans la scène, c'est que il essaye de un petit peu la panoplie basique du tueur de vampires, quoi. Il lui sort la croix, il lui met devant la croix, puis t'as Dracula qui est là. Ah, ah non, mais c'est je blaguais, en fait, j'en ai rien à foutre de ta croix. Il me fait hurler de rire, cette scène. Parce que Van Helsing tout content, tiens, je te mets la croix d'eau bénite sur la gueule. Et t'as l'impression, oh ben ça marche en fait.
Non.
Et c'est un peu tout comme ça de façon avec Van Helsing. Hein. C'est, ah oh, tiens, ça marche. Ah ben en fait, non. Donc voilà. Donc finalement, Dracula fait une présentation en bonne et due forme. Il continue à faire sa drama queen, quoi. Anna n'arrive pas à libérer son frère. Hein. De souvenir, hein, il crève.
Non, non. C'est après, non, qu'il crève.
C'est plus tard, c'est plus tard.
C'est plus tard, hein.
C'est pas grave, il continue de frire, hein.
Ouais, alors je sais plus ce qui se passe, par contre, qui fait que...
Ah, oui.
À un moment, il est plus sur la machine, et donc...
En fait, elle le libère en partie.
Ouais.
Et donc, comme il est transformé en loup-garou, bah, il a juste envie de la manger, quoi. Et donc, Van Helsing, qui comprend qu'il va se prendre une déculottée par Dracula et compagnie aussi, il la retrouve. Et puis, c'est là où il tire son grappin de l'autre côté du grand fossé, là, qui est encore apparu, on ne sait trop où. Qui fait 40 km de large, mais c'est pas grave. Il traverse avec le grappin, là, et puis il y a le loup-garou qui saute sur le grappin, et puis tout ça, quoi.
Ah oui, mon Dieu.
Tout le monde se casse la gueule, et là, t'as un super balancier. C'est merveilleux. Bon, faut quand même préciser que pendant ce temps, au village, hein, les bébés Dracula essaient de becquer un petit peu la population locale. Karl fait ce qu'il peut pour s'en sortir aussi.
Ouais, il chope une nana au passage.
Voilà, et la conclusion de l'histoire...
Ah, c'est sa petite récompense.
Eh, bravo Karl.
Bon, il sauve une nana plus ou moins accidentellement, machin. Et la fille, oh, je suis trop contente, comment je peux me récompenser? Non, les garçons.
Écoute, il a demandé. Il a demandé.
Oui, enfin, il a demandé, c'est elle qui a dit. Mais toi, t'es là. Ouais, c'est moyen, la fille, hein.
Oui.
Ouais, mais je rappelle que ce n'est qu'un frère.
C'est vrai.
Ce n'est qu'un frère.
Donc.
Oui, mais scénaristiquement, c'est moyen quand même. Tu sauves la fille, tu demandes ce qu'elle veut comme récompense, oui. Tony qui est gros.
Ouais, ça.
Ok.
Ça aurait pu être rigolo, justement, qu'il y ait un sous-entendu. Et puis la scène d'après, on le voit en train de manger un bon repas. Voilà, et qu'en fait, c'est ça qu'il a demandé. Ça aurait pu être rigolo, mais bon.
Oui, et puis tu vois la fille vexée parce que...
Ouais. Tu te trouves sur l'île du plaisir et tout ce que tu veux, c'est manger.
Bah ouais, j'ai faim.
Midi 12, j'ai toujours faim.
Moi, à midi 12, j'ai toujours faim. Mais pardon, quoi, entre baiser et bouffer, moi, je choisis bouffer, hein.
Bah clairement, hein.
Mais les gens...
Mais tout le monde n'a pas la même opinion, apparemment.
Ah, et un bon goulash, là. Oh putain. Mmh. Avec une bonne petite pivot prosime. Petite charnicozelle. Typique ambiance. D'ailleurs, en parlant de picole, Van Helsing et Anna vont aller se réfugier dans le vieux moulin abandonné pour picoler de la vodka ou de l'absinthe qui traîne de là depuis un an, tranquille. Mais bon, allons picoler dans un moulin en ruine. Hein, faisons du urbex local.
Ouais, c'est les squatteurs qui viennent, qui viennent planquer de l'alcool, là, apparemment.
Bon, elle se fout quand même un peu de Van Helsing, hein, de l'eau bénite, un crucifix, des pieux dans le cœur. Vous croyez qu'on n'a pas essayé, gros? Ça fait neuf générations qu'on se bat contre le clampin, là.
Eh ben ça, c'est la phrase la plus intelligente qu'elle a sortie de tout le film.
C'est vrai.
Oui. Bon, en même temps, il y a un mec qui sort de nulle part, qui la mansplaine sur un truc où sa famille, ça fait 9 siècles qu'ils essayent, quoi. Bonjour le mansplaining, quoi.
C'est vrai, hein. Elle peut être vénère, mais bon, elle pleure toutes les larmes de son corps parce que son frangin, elle sait qu'elle ne pourra plus le sauver. Même si le frangin est encore tombé dans un trou et il va encore en remonter parce qu'on va le revoir encore après auprès de Dracula.
C'est vrai qu'il a, la santé, hein. C'est bien.
C'est la chute.
C'est comme ça qu'aurait dû s'appeler le film, les chutes.
Bah, d'ailleurs, ils sont dans le moulin. Qu'est-ce qui va se passer? La chute.
La chute, oui.
Voilà, parce qu'ils sont dans le vieux moulin qui a cramé, et évidemment, comme toute personne sensée, on va marcher sur des sols qui ont en bois qui ont cramé.
Alors qu'il pleut.
Et qui sont à l'air libre depuis plus d'un an, hein.
Et en plus, il pleut à torrent, donc bref.
Voilà, et donc le plancher s'écroule sous les pieds de... Alors, on n'a pas fini de dire quand même que, vu que Velkan n'était pas assez puissant pour faire fonctionner la machine, ça a pas marché et que tous les bébés Dracula meurent en explosant comme des bulles de savon. Alors, après, niveau pollution du slime sur le sol, je sais pas trop ce que ça donne, parce qu'il y en a quand même une grande quantité. Peut-être pour ça qu'il pleut, ça nettoie naturellement.
C'est peut-être un bon engrais?
J'allais le dire, c'est peut-être un bon engrais.
Ouais, il pleut, ça nettoie.
C'est une forme de fumier liquide.
Ça nettoie le sol. Ouais, bon, du slam de cadavre.
Les récoltes n'ont jamais été aussi belles ces années-là.
Voilà, donc les femmes de Dracula sont éplorées, hein, parce qu'il y a encore toute une tripotée de bébés qui sont morts. C'est dur. Et Dracula commence à se rendre compte que ouais, ça aurait été bien si Frankenstein il était encore en vie, en fait, pour faire fonctionner la machine.
Il a peut-être été un peu con. C'est bien, méchant qui fait son mea culpa, j'ai peut-être été un peu con.
Et donc revenons à Van Helsing et Anna, donc ils sont passés à travers le plancher, qui se retrouvent avec une botasse, allez, une grosse mare, un petit étang sous le moulin, gratuit.
Oui, en fait, ça sert à rien, cette scène.
Non, non, il y a une botasse.
Elle sert à quoi? Non?
Bah, ça a servi à amortir leur chute, non? Sinon, ils seraient morts.
Dans quoi? Ah oui, c'est vrai, d'accord, oui, je me rappelle.
Ils se rendent compte qu'il y a des trucs bizarres, il y a plein d'arêtes de poissons, il y a des machins morts, il y a des gros strass. Alors, Van Helsing, un bon chasseur de monstres, te décrit tout un tas de trucs. Oh, ça doit faire 2 mètres, 120 kilos, chaussé du 50, et ça a 3 dents en étain. Et l'autre en face, niet, de quoi 3 dents en étain? Oui, il est derrière toi! Surprise! Surprise derrière toi, ça quel bouge. Donc ils se font attaquer par la créature de Frankenstein, qui depuis la chute dans le moulin devait se planquer là, en fait. Hein, donc ça fait un an qu'il vit dans les ruines du moulin planqué au regard de l'humanité.
Qu'on m'explique quand même comment il a survécu aux flammes. Parce que, je veux dire, il est fait...
Il est passé à travers le plancher.
Il est arrivé dans le bassin.
Oui, mais alors, ouais, c'est vrai, ouais. On va dire ça.
Il a pas frit. Donc, la créature est donc toujours en vie. Elle n'est pas forcément très contente qu'on soit venu lui rendre visite non désirée. Ils s'en prennent à lui. Et quelqu'un veut dire quelque chose sur la scène?
Bah, qu'en fait, on a un twist scénaristique un peu minable. Non, mais en fait, vous savez, pour que Dracula fasse fonctionner ma machine, il faut que ça soit moi. Donc, vous voulez me buter, mais ça serait peut-être bien que vous me butiez. Et le problème, c'est que Van Helsing, il fait « Non, mais attends, t'as lu la Bible? T'as l'air un mec sympa, on va peut-être pas te buter, en fait. » Mec, t'essayes de buter des gens depuis le début, là, juste parce que le mec, il a lu la Bible. Enfin, le mec, les 7 mecs assemblés. Il a lu la Bible, ah non, on va pas le buter. Et il vient de te dire que c'est à cause de lui que la machine de Dracula peut marcher, mais vas-y, bute-le. Tu nous fais chier avec tes états d'âme.
Tout ce qui bouge, mais lui, non. Pas ce personnage-là, parce que...
Non, ouais, il a lu la Bible. Voilà, parce qu'une fois de plus, comme le scénario est un petit peu bancal, hein, la créature nous explique pourquoi elle est encore en vie, c'est parce qu'en fait, il y a le catalyseur pour la machine, c'est la créature. Qui d'ailleurs, ça explique son aspect un petit peu particulier de steampunk, un petit peu plus un peu organique, un petit peu machine aussi, hein, qu'une conception classique de la créature où c'est juste un assemblage de chair. Hein.
Là, il y a cette scène où il a des lambeaux de peau qui...
Oui, il y a son crâne qui s'ouvre.
Qui s'ouvre littéralement sur le visage, c'est pas mal.
Ouais, c'était plutôt cool.
Alors qu'on m'explique quand même comment la créature est au courant de ce qu'elle est. Parce qu'il n'a pas eu le temps de lui expliquer,
non.
Son papa.
Non, mais ta gueule, c'est magique.
Ah, voilà.
Il a un cerveau.
Bah, en fait, il a beau être intelligent, il ne peut pas forcément deviner que qu'il est la solution à la machine pour faire vivre les bébés de Dracula, quoi.
Ça aurait pu être intéressant, justement, qu'il découvre ça une fois à l'extérieur, une fois en contact avec Dracula. Et voilà, comme ça, ça aurait en plus résolu le problème du « Ah bah, vous devez me tuer !» et le fait que Van Helsing ne le tue pas, quoi.
De toute façon, on touche là à un problème du film, hein, que ça soit ce qu'on a vu ou ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des gros défauts de scénario, il y a des lacunes de scénario. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'ils ont fait un énorme scénario, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, donc ils ont trop tronqué, réadapté, machin, puis finalement ça donne une espèce de gloubi-boulga qui fonctionne pas très bien
Moi, je pense qu'ils ont voulu mettre trop de choses, hein.
Voilà.
Ah oui, bah oui.
Aussi.
À la limite, ils auraient dû en faire 2 films. Peut-être qu'ils auraient pris le temps de mieux développer certains aspects du scénario.
Et donc, ils épargnent aussi la créature avec une scène... Moi, je la trouve assez touchante, où la créature va s'en prendre à Anna, et Anna demande à la créature qu'est-ce qu'elle veut. Et là, il bug. En fait, je veux juste vivre.
Ouais, c'est très touchant, je trouve.
Mais ça, c'est aussi la créature dans le roman. Hein. Dans le roman de Mary Shelley, la créature, elle a envie de vivre, et... Bon, là, c'est pas exploité, encore heureux. Mais dans le livre, elle veut pas vivre toute seule non plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc, il décide enfin, il décide de protéger la créature parce que, bien évidemment, ah bah dis donc, qui était là? Ah bah le loup-garou était là! Il a tout entendu, donc il va tout rapporter à Dracula, ce gros rapporteur!
À quatre moteurs!
Voilà, donc maintenant Dracula sait qu'il a besoin de la créature et que la créature est en vie avec Van Helsing et Anna! Oh là là! C'était facile!
Bah oui, forcément, bah oui.
Du coup, faut le ramener au Vatican pour le protéger, parce que Dracula, on sait qu'il ira pas au Vatican, évidemment. L'eau bénite, tout ça, ça lui fait rien, mais c'est pas grave, il ira pas au Vatican.
Bah c'est loin, hein.
Donc voilà, donc il décide, pour empêcher Dracula, bon, ça n'empêche pas Dracula de potentiellement foutre tout le boxon dans le coin aussi, mais c'est pas grave, on va ramener la créature au Vatican, comme ça au moins la machine de Dracula fonctionnera pas. Donc ils embarquent, ils assomment la créature, enfin ils endorment la créature, hein. Et il la charge dans une diligence direction le Vatican. D'abord Budapest et puis le Vatican. Bon, évidemment, tout ne se passe pas bien.
Non,
pas bien du tout, vu que la diligence est attaquée par les deux femmes de Dracula restantes qui sont très motivées pour faire fonctionner la machine et récupérer tous leurs enfants. La bataille de la diligence. Vos opinions.
Et ben là, je peux pas en dire grand-chose parce que mon DVD à 1 euro a bugué à ce moment-là. Donc j'ai raté un petit peu de film. De ce que j'en ai vu, c'est une bataille, quoi.
Bah, c'est une course-poursuite.
Oui, voilà.
C'est une course-poursuite qui est presque un peu intelligente dans sa conception, parce qu'il y a un petit twist à la fin. Mais oui, ça reste une course-poursuite, tout ce qu'il y a de plus standard. On passe à côté des ravins, dans la forêt, gna gna gna. Finalement, là, la course-poursuite en elle-même, oui, c'est classique, hein, elle fonctionne, hein.
Bah oui, avec l'explosion et tout, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils ont pu mettre dans cette scène, ils l'ont mis quoi, comme toutes les autres scènes hein, d'ailleurs.
Oui, c'est un petit ça, il a un petit côté un peu too much dans sa réalisation, Stephen Sommers, hein, sur ce film. Mais moi, je trouve qu'elle fonctionne plutôt pas mal. Et effectivement, comme disait Xian, il y a un petit twist qui, en fait, il y a deux carrioles. Une dans laquelle il y a effectivement la créature et une dans laquelle, ben, en fait, il y a personne. Et en fait, les deux femmes de Dracula coursent la carriole vide. Et ce qui va permettre aussi de tuer une deuxième femme, en fait, hein, quand la carriole tombe.
Au passage, la deuxième femme, c'est la vraie femme de Richard Roxburgh. Ouais, ils se sont rencontrés sur le tournage, en fait. Donc la brune aux cheveux longs, bah finalement, ça va devenir Madame Roxburgh.
Voilà, et donc ils sont tout contents. Youhou, on en a buté une, et puis on est passé, et puis on s'est pas fait couillonner. Et pas de bol, si, parce qu'en fait, le loup-garou les rattrape. Il fout le feu à la carriole.
Et c'est le drame.
Ce qui effraie grandement la créature, hein, parce qu'elle a quand même peur du feu.
C'est mauvais!
Voilà.
Faut arrêter de regarder Hôtel Transylvania, hein.
Ah, mais pas sorry, mais j'y pensais à tous les coups, hein.
Bah, Hôtel Transylvania, ils connaissent leur classique, hein.
Bah, c'est ça. Et ils ont des scénarios bien mieux construits.
Oui.
Enfin, ça dépend pourquoi, mais...
Carl aussi a très peur de la créature au début, mais il apprend à lui faire confiance dans la carriole, hein, parce qu'il lui sauve la peau aussi. Et donc, le loup-garou vient, et donc t'as un affrontement entre Van Helsing et le loup-garou. Le loup-garou qui finit par se faire buter, mais avant de mourir, il laisse une petite marque à Van Helsing, parce qu'il le niaque. Petite autographe de fin.
C'est vrai que c'était pas assez compliqué.
Voilà. Donc, ils sont contents, ils ont tué une femme, ils ont tué le loup-garou, ils ont tué le pauvre Velkan. Et donc, c'est Anna qui retombe sur le cadavre de son frère, hein, et là, ah bah tiens, oh la dernière femme, oh bah tiens, je vais enlever Anna. Et donc, Anna se fait tranquillement kidnapper par la dernière femme de Dracula. La créature de Frankenstein se rend compte que Van Helsing s'est fait niaquer et il se fout de sa gueule en disant « Ah ah ah, dans quelques jours, ça sera la pleine lune, t'auras l'air finot !»
D'ailleurs, on en parle de cette pleine lune qui revient tous les 3-4 jours à peu près.
Oui, 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 il y a une ellipse temporelle un peu particulière. Hein. Mais ça, c'est un peu souvent un défaut dans les films de loup-garou, où comme il faut qu'il y ait la pleine lune, à un moment donné, t'as forcément des ellipses
ouais.
pour que ça fonctionne.
On va dire que le voyage en diligence a duré beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit.
Bah, faut aller jusqu'à Budapest, hein.
Bah oui, c'est ça.
Voilà, les voyages prennent du temps, allez.
Et ce qui est rigolo ici, c'est qu'en fait, ils essayent de mettre un peu de la tension. On a enlevé Anna, Van Helsing est à peu près condamné, c'est la merde, et je sais pas pourquoi, mais en fait, ça fonctionne pas. Il y a un problème de tension à ce moment-là. En fait, est-ce que c'est parce qu'il y a too much, mais voilà, on n'y croit pas vraiment. Il aurait pu y avoir un côté contre la montre qui aurait dû se lancer, et en fait, ça marche pas. Mais c'est pas grave, c'est bien quand même.
Oui, ça va manquer un petit peu de tension. Donc bon, ils décident quand même de continuer leur trajet, hein, donc ils arrivent à Budapest. Et là, à Budapest, ils tombent sur la dernière femme de Dracula qui vient leur dire que, bon bah écoutez les gars, nous on a Anna, vous avez la créature, on troque.
C'est ça.
Van Helsing d'accepter.
Ok.
Au grand dam de la créature, hein, qui voudrait plus, qui préfère mourir hein, que de servir les desseins de Dracula. Et donc ils ont rendez-vous lors du grand bal de Budapest pour troquer la créature et Anna.
Meilleure idée du film, ça. Moi, j'aime beaucoup le bal masqué, je trouve ça.
Ah, ce bal, il est magnifique.
Cette scène, elle est géniale.
Voilà, donc bon, comme
la robe rouge.
Van Helsing, en réalité, n'a aucune envie de livrer la créature. Parce que tu comprends, il a lu la Bible, il faut le sauver. Va l'enfermer dans un va l'endormir et le planquer dans un caveau avant de partir au bal masqué.
Ohé, ohé.
Voilà, avec Karl avec un magnifique déguisement de bouffon et Van Helsing a un costume masqué tout à fait classique, mais voilà. Mais Karl et son costume de bouffon très drôle. Voilà. Et donc là, nous avons une magnifique scène de bal.
Ah ouais, très belle.
Il se passe le soir d'Halloween, voilà, pour l'ambiance.
Ouais, bah oui, oui.
Je vous laisse parler un petit peu sur cette scène, Léandra.
Ah bah, moi j'aime beaucoup, déjà, il y a une référence au cinquième élément, parce qu'en fait, la cantatrice, enfin, il y a une chanteuse qui se met à chanter, enfin, c'est clairement une ref au cinquième élément, donc je trouve ça vraiment marrant, quoi. Enfin, c'est hyper joli, et puis tout est... Enfin, c'est vraiment un décor magnifique, quoi. On voit, je crois que justement, ils ont fait ça. J'avais vu que ils avaient tout la chorégraphie et tout. Il y avait plus de 300 personnes, etc., etc. Donc là, ils ont mis vraiment du boulot. Là, ils ont fait vraiment du boulot pour finalement, en fait, on s'en rend pas tellement compte qu'il y a autant de monde. Mais je trouve que elle est très belle cette scène. Donc bon, après, pareil, Dracula, le consentement avec Anna, bah. Je l'embrasse alors qu'elle est à moitié droguée aussi, quoi, donc super, mais...
Et là, on a un beau décolleté.
Voilà, c'est ça, voilà les fameux plans nichons.
C'est vrai.
Dans une robe rouge en même temps. Belle robe rouge, plan nichon, tout va bien.
C'est vrai.
Bah, robe rouge qui rappelle un peu celle de Winona Ryder dans le Dracula de Coppola, d'ailleurs.
Mais il y a toujours une robe rouge.
Oui.
Tu regardes dans les trucs comme ça, elles ont toujours des robes rouges, hein. C'est comme le drapeau rouge pour exciter le taureau, tu vois. Tu mets la robe rouge.
Parce que le rouge, c'est la couleur de la passion. Et du sang aussi.
Touch my tralala, tire pas que le cheval. Et bah pour aller dans ce sens-là, Dracula lui dit, bah dis donc, tu veux pas devenir ma nouvelle femme? Ok.
C'est pas romantique.
Non. Pourtant, on pourrait attendre mieux de Dracula, hein, de draguer quand même.
Ouais, là, c'est un peu lourdingue.
Ouais.
Bon, c'est une scène de bal, ça danse, ça chante, et puis ils se regardent dans une glace, c'est magnifique.
C'est beau.
Qui avait noté effectivement que dans la glace, on ne voyait personne, même derrière?
Bah oui, on voit personne.
Ah oui, c'est vrai.
Moi, je l'avais pas noté, en fait. Tu voyais bien que elle était... Enfin, parce que les vampires n'ont pas de reflet, hein, dans un miroir, donc... Comme elle danse avec Dracula, on voit bien qu'elle est dans le vide, en fait, dans la glace. Par contre, je n'avais pas du tout fait attention qu'il n'y avait personne dans la glace.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, bon, Van Helsing arrive pour la sauver. Grand seigneur tout honneur, il fout le feu à Dracula en se disant « Youhou, c'est bon, je l'ai fait fuir et je l'ai fait frire ». Bah, non, ça marche toujours pas, en fait.
C'est toujours aussi nul.
Toujours aussi naze. Et...
Il coupe quand même la corde, là. Il coupe la corde, enfin, parce qu'il arrive en acrobate, là.
Oui, il fait des belles acrobaties.
Parce que forcément, l'entrée est forcément, voilà, hein, il peut pas faire une entrée juste par une petite porte dérobée, non. Il non. arrive.
D'ailleurs, ça tombait vachement bien ces acrobates là qui se balançaient du plafond, qui arrivaient pile au niveau de Van Helsing.
Van Helsing, et d'ailleurs, le plan est assez rigolo parce qu'on voit l'acrobate s'approcher, il sort du cadre, on entend PUNG, et puis on voit Van Helsing qui repart avec le truc. La subtilité de la scène. Voilà, donc bon, il arrive à récupérer Anna. Et là, sauf que, les gars, en fait, toute la salle, c'est une salle de vampires. Et là, alors, niveau beauté du truc, c'est pas mal, mais niveau scénario, Dracula, pourquoi est-ce que t'as envie de faire revenir tes gosses? T'as la moitié de Budapest, c'est des vampires avec toi, là. C'est quoi le problème, en fait?
C'est ça. Il pourrait tellement s'amuser.
Bah, c'est l'amour paternel.
Bah, c'est là qui est génial, parce qu'il dit qu'il a besoin de ses enfants pour gouverner le monde. Et là, t'es dans un bal à Budapest, et c'est tous des vampires. C'est pour ça qu'on voit personne dans la glace, et que nous, on n'a pas fait gaffe, parce qu'on est des branques. Ceux qui y avaient vu, bravo à vous, c'est-à-dire que vous étiez moins pris dans le film que nous. Mais voilà, et en fait, c'est là où tu dis, il y a une incohérence. T'as vu le monde qu'il y a dans ce bal, il y a des centaines et des centaines de personnes. Soit il nous dit que la moitié de la Transylvanie, à part un pauvre village qui fait de la résistance au pied du château de Dracula...
Moi, à choisir, je préfère faire des orgies que d'avoir des gosses, hein, mais bon, chacun ses préférences. Hein.
Chacun son truc, hein, on est d'accord.
Mais tu sais, c'est une histoire vieille comme le monde, hein, pour paraphraser un certain Victor dans Underworld, hein. Le mec, il peut mordre pour faire des enfants volontés, mais non, il va en faire un avec une autre partie de son anatomie, quoi. Il a envie de rentrer dans quelque chose, mais pas avec ses crocs. Donc évidemment, je veux faire des enfants, mais je veux faire des enfants comme un humain. Mais mec, tu peux pas. Il y a un moment, il a accepté. Tu peux pas trouver une autre solution, hein. Visiblement, l'adoption, ça marche aussi pas mal, hein.
Bah, coucou, entretien avec un vampire.
Tout ce bal n'était en fait, en réalité, qu'une diversion pour occuper Van Helsing, parce que Dracula, bah, comme on comprend qu'il a des sbires partout dans Budapest, bah, il sait très bien où ils ont planqué la créature, et donc ils ont capturé la créature. Van Helsing et Anna, bah, démerdez-vous avec toute la meute de vampires là, qu'il y a au bal.
Et Anna, elle est prête à en découdre, hein. Anna, elle est prête à en découdre, hein. Elle te sort une masse d'armes de son cul, on sait pas trop où, mais elle est prête à en découdre, hein. T'as 300 vampires devant elle, c'est bon, elle te sort la masse d'armes, allez, on va leur péter la gueule. Alors que t'as mon Delphine, non, on s'en va quand même.
Alors que ça pourrait être, voilà, le combat ultime et tout. Eh ben non, finalement, c'est pas elle qui va encore pouvoir se battre.
Eh ben non, parce qu'il y a Karl!
Attention, il va sortir son engin.
Parce que vous l'aviez tous oublié, Karl, et son invention dont il sait ce que ça fait, mais qu'il sait pas quoi, comment s'en servir.
La fameuse, le MacGuffin du début du film.
Voilà.
Parce que là, il sait à quoi ça sert. Là, il le dit, je sais à quoi ça sert.
Voilà, et d'un coup, j'ai une illumination, je sais à quoi ça sert.
Pouaf! Et la lumière fut.
Et donc, en fait, Karl, depuis le début, il a une espèce de, ce que nous, on dirait une bombe, en fait. Et c'est en fait c'est la sainte grenade de Worms. Quand tu balances la sainte grenade, ça fait Alléluia et ça fait de la lumière et ça tue tous les vampires.
Fin des vampires.
Ça ils l'ont piqué au Monty Python, ça c'est sûr.
C'est tout à fait possible, ouais. Mais ça fait vraiment la sainte grenade de Worms, tu sais où tu balances Alléluia, et tout explose et puis t'es tranquille.
Là, je comprends pas pourquoi Dracula, lui, il saute pas, quoi.
Mais lui, il est déjà parti, en fait.
Il est déjà parti?
Bah, j'en sais rien.
Bah, on sait pas.
Parti avec la créature, non?
Non, parce que la créature, elle est dans une barque avec Igor, là, tu sais, parce que eux,
bah,
quand...
Oui.
Karl, il balance la bombe, eux trois, Van Helsing, Karl et Anna, ils sautent par la fenêtre et ils se retrouvent dans le... Je sais pas c'est quoi, le fleuve qui passe à Budapest, enfin, ils se retrouvent dans le fleuve, et ils voient le bateau avec la créature qui s'en va, et puis t'as Igor qui est là... Coucou. Bon, Van Helsing essaye de nager, mais bon, il nage 4 mètres, après il se tape la herse, donc... Donc voilà, et il s'énerve, il commence à montrer des signes de transformation de loup-garou, hein, parce qu'il s'énerve. Il manque de tuer Karl, d'ailleurs, parce qu'il le chope à la gorge. Et voilà, donc, conclusion, c'est « Il faut qu'on retourne au château de Dracula, il faut qu'on trouve le château et qu'on libère la créature !»
Il faut repartir de l'autre côté.
Sauf que le château, c'est pas comment on y va.
Voilà, donc c'est retour à la case départ dans le château des Valerius.
N'empêchez pas 20 000 euros et le temps scénaristique a fait qu'il ne s'est pas retransformé en loup, il s'est pas transformé en loup-garou.
Voilà, donc là, ils sont au château, ils sont « Merde, comment on trouve le château de Dracula ?» Mais Karl a en partie la réponse. Parce que pendant que Karl était en train de faire des galipettes avec la jeune fille qu'il avait sauvée, il découvre par hasard un film d'animation.
Un film d'animation.
Ah oui, il y avait la télé dans sa chambre, il l'avait
c'est
pas vu.
C'est vraiment des branquins. Et donc, il était tombé sur une tapisserie qui s'anime, où on voit le vampire, un vampire qu'on suppose être Dracula, et un loup-garou se foutre sur la gueule, en disant que c'est seulement un loup-garou qui sera capable de bouffer Dracula. Alors t'es là, merci la logique, parce que les loups-garous, ils servent Dracula depuis des siècles, mais c'est pas grave, pourquoi il y en a jamais un qui essaie de le bouffer?
Il faut que ce soit le loup-garou ultime.
Et le tout avec, oui mais il a un antidote, donc Dracula... On va revenir sur cette histoire de scénario d'antidote qui sort du chapeau de mon cul, là. Karl a déchiffré aussi toute la tapisserie, mais oh, il manque un petit bout dans un coin de la tapisserie avec les derniers mots.
Incroyable.
Et oh, bizarrement, c'était pas le petit bout de rouleau qu'avait envoyé le papa Valerius au Vatican. Oh.
Et hop, deuxième MacGuffin qu'on place.
Voilà, et donc résultat, ils peuvent lire le texte en plein et ils trouvent le chemin pour aller au château de Dracula. Et là, tu passes à travers la porte de Stargate.
Exactement.
moi, j'ai fort pensé à la passe miroir à ce moment-là, je suis désolée.
Mais... Il t'est déjà sorti à ce moment-là
si,
ou pas
Non, pas du tout. Non, mais avec le recul maintenant.
Non, c'est Christelle qui a copié, hein.
Voilà, c'est ça. Christelle, si tu nous entends, copieuse.
Entends, t'as tout pompé, hein. Franchement.
À tous les coups, elle l'a pas vu.
C'est pas faux.
C'est honteux. Christelle, on t'aime, hein, tu sais.
Eh oui.
Comme on entend de la vache. J'ai honte. On t'aime.
Bon, bref, en tout cas, scène de passage de miroir, qui est plutôt en référence à Alice au Pays des Merveilles, hein, comme ça. Mais voilà, ça marche aussi avec la passe miroir et avec Dracula, visiblement.
Il n'a pas de reflet, donc c'est pratique.
C'est vrai.
Donc, ils arrivent au château de Dracula, qui est encore une histoire de gros fossé. Il y a un énorme canyon qu'on ne sait pas encore d'où il sort. Hein. Le château est quelque part dans les montagnes et il y a des immenses ponts pour y relier.
On en parle quand même quand il passe la porte, c'est que Karl veut retourner de l'autre côté, qu'il se prend la porte dans la gueule.
Oui.
Moi, ça me fait très rire. Je trouve ça.
Et en fait, là, il y a aussi un twist un peu bizarre, ce que tu fais. Mais si Dracula, il a été passé à travers ce machin et qu'il peut pas venir, comment il est revenu et tout ça.
Et bah, peut-être qu'il peut, lui.
C'est parce que Dracula, il vole.
Ah, mais voilà, logique.
Ils volent quoi ? Pardon. Et donc tu fais, les mecs, vous avez exilé Dracula dans un château, par une porte magique, mais vous n'êtes pas dit que le mec, il était capable de voler, en fait ? Voilà, plan scénario.
C'est peut-être les courants d'air. Les courants d'air, pour le retour, c'est plus facile que pour l'aller, donc on prend la porte, et après on repart. Non, je sais pas.
Voilà, donc bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, ça fait une scène sympa, mais bon, dans l'absolu, t'es là. On n'est plus à un défaut scénaristique près dans cette série, hein.
C'est ça. Là, on arrive à un point du film où on se dit, bof, et on sort le pop-corn et puis c'est tout.
On en est à ta gueule, c'est Dracula.
Et on parle pas la bouche pleine.
Ta gueule, c'est Dracula.
Voilà.
Voilà, donc ils vont à l'assaut du château. Tu veux dire quelque chose, Léandra ?
Non, c'est que je regarde la scène en même temps, et du coup, je vois...
Oui, parce que Karl est effectivement très courageux, donc quand il passe de l'autre côté, ça lui plaît pas du tout, il veut se barrer et...
Non, non, mais j'avais oublié comment il traverse la porte, en fait. C'est Van Helsing qui les porte tous les deux.
Ah oui, parce que oui...
Parce que comme il est loup-garou, du coup, il...
Il est à moitié... Enfin, il est pas encore loup-garou, mais il a
c'est ça.
La force du loup-garou,
ouais,
sans
c'est
être
ça.
Loup-garou. Voilà, donc il se retrouve au château de Dracula, dans le château de Dracula, et... Pouet pouet oui, il voit la créature qui est en train de se faire monter sur le haut du château pour servir de catalyseur.
Par qui ? C'est monté par qui ?
Par Dracula.
Pourquoi pas ?
C'est le moment de lancer les fanfics là.
Bah là, avec tous les crossovers qu'on a depuis le début du film, on peut se faire plaisir, hein.
Ah ouais, si tu savais. Donc, la créature leur dit « Ah, mais Dracula, il a un antidote contre les loups-garous, putain! Va chercher ton antidote contre les loups-garous!
Sauve ton cul !»
Et sauf que...
Heureusement qu'il est là, hein.
Oui, sauf qu'en fait, on est dans un truc hyper logique. C'est que... on nous dit « Bah oui, mais il faut que Van Helsing il soit sauvé, mais en même temps, s'il y a que le loup-garou qui peut buter Dracula, donc ah !» Et là, méga twist encore, c'est oui, il a un antidote pour contre les loups-garous, hein, Dracula. Au cas où il y en aura un qui voudrait se rebeller, ok, bon, fait pourquoi pas, ok. Mais il faut qu'il soit utilisé avant le dernier 12e coup de minuit, lors de leur première transformation.
Bah oui, il faut quand même un peu de règles, moi je trouve. Ça manque de règles, donc c'est bien de.
Ouais, mais en gros, une fois passé la première pleine lune. Bah, il peut plus se rebeller, en fait, c'est mouru.
Bah oui. Et d'ailleurs, qui c'est qui l'a mis au point, cet antidote ? C'est Frankenstein ?
Enfin, on sait pas.
Peut-être, on peut tout imaginer à ce...
Non, il sort du chapeau.
C'est peut-être Dieu au point où il en est, hein ?
Ça sort du chapeau.
Dieu, il se dit, « Ah, attendez, le diable, il a pactisé avec Dracula, il a fait ça. Je vais leur donner un coup de main. Ah, mais devenir un loup-garou, c'est pas cool. Pof, je leur balance un antidote, allez, démerdez-vous, je sais pas qui le récupère, machin, allez, démerdez-vous. Ah, moi, je regarde, je prends mes pop-corn et je regarde. On voit si...
Voilà, donc moi, vraiment, cette histoire d'antidote anti-loup-garou, là, c'est vraiment le gros plot hole de l'histoire, quoi. Parce que c'est incohérent au possible, en fait. Je trouve que tout ce qui relève de l'asservissement des loups-garous et de leur contrôle par Dracula est vraiment... tiens, pas là du tout la route, quoi. Il y a Anna et Karl qui vont chercher l'antidote.
Il y a un bisou, quand même.
Ouais, ouais. Avant la séparise, il y a un bisou.
Il y a quand même le bisou.
Ah bah oui, le fameux bisou.
Ah bah oui, quand même.
On en dit quoi de ce bisou ?
Est-ce qu'ils ont mis la langue ? Je ne sais pas.
Qu'elle en profite avant qu'il ait les dents longues, hein, parce qu'après, c'est plus
compliqué. Est-ce qu'il avait déjà sa langue de chien? Après, il va baver.
Son haleine de chien.
Mon Dieu, venez nous en aide.
Ils vont pas en profiter très longtemps. Hein.
Écoute, chacun a le droit d'aimer la chair froide. Hein.
Bon, continuons, voilà. Continuons.
Oui. Allez, on y est presque.
Juste histoire de bisous, en fait on voit qu'ils ont essayé de mettre une romance un peu entre Von Helsing et Anna, mais on a vraiment l'impression que c'est oh là là, faut quand même qu'on mette un peu une romance parce que sinon
ouais, c'est forcé, hein.
ouais c'est pas, alors que c'est
elle est belle, il est beau, allez embrassez-vous.
Alors en vrai c'est un couple qui marcherait très bien, mais en fait il est tellement pas traité correctement dans le truc, en fait, que parce qu'en vrai c'est un couple qui pourrait bien marcher, hein.
Il n'a pas de développement. C'est qu'il y a tellement de choses à côté dont il faut parler en priorité que la romance est vraiment au second plan, pour le coup. Voire au dixième plan.
Puis ça sert à rien.
Ah, ça, c'est pour le drama de la fin. C'est pour le drama de la fin.
Oh oui, là là. Ça, voilà. Oh là là, la fin.
Le drama de la fin. On va y arriver. Donc, Carl et Anna vont pour chercher l'antidote. Bon, qui se complique parce qu'évidemment, il y a la dernière femme de Dracula. On ne met pas les mains dans les choses gluantes, qu'on ne sait pas ce que c'est. Enfin, il y a tout.
Des trucs blancs et gluants.
Transparents et gluants, s'il te plaît.
C'est transparent, là.
Ouais. Et qui apparemment crame. Hein. Ça fait cramer les vampires. Alors, qu'est-ce que c'est?
Je pense que c'est de l'acide.
Une espèce d'acide. Je veux quand même pas dire, dans ce film, il y a plein de sous-entendus un peu dégueulasses dans ce film. Hein, surtout quand on les fait nous-mêmes.
Oui, je pense que c'est plutôt nous qui avons l'esprit mal placé, mais.
Voilà, donc là, on va arriver un peu sur le climax, hein, donc il faut récupérer la seringue pour Van Helsing.
Mais je trouve ça marrant, moi, je trouve ça vachement original d'avoir la seringue qui est dans un énorme jarre rempli d'acide, et ça apporte, voilà, c'est pas juste, faut la récupérer et puis il se barre, quoi.
Ouais, mais du coup, la seringue, elle fond pas dans l'acide.
Peut-être que c'est que l'organique que ça touche.
C'est quoi l'intérêt de mettre une seringue dans une jarre avec de l'acide? Parce que le jour où il en a besoin, Dracula, eh ben, il faut bien qu'il mette la main dans la jarre et il se fait cramer.
Oui, mais lui, il s'en fout, il est mort si sa main se décompose.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est vrai qu'elle se recompose après, la nana vampire.
Ouais, parce que en fait, la nana, elle se prend tout dans la figure et...
C'est vrai qu'elle nous fait tout un truc. Ah, je suis défigurée! Ah bah non, en fait, ça va.
Je pense que c'est ça, c'est pour qu'il y ait que des vampires qui puissent l'attraper, quoi.
Ah oui, effectivement, ça se tient.
Voilà, donc on s'ensuit une bataille entre Anna et la dernière femme vampire, qui, comme d'habitude, bah, les méchants et les méchantes parlent beaucoup trop.
Anna lui dit d'ailleurs.
Ah oui.
Et d'ailleurs, Anna lui fait remarquer, hein, tu ferais mieux de mordre au lieu de parler juste avant de la tuer. La petite baston entre les deux est plutôt sympa, hein, soit dit en passant. Rien d'extraordinaire, mais elle marche bien. Pendant que Carl, lui, s'enfuit avec la seringue, sauf qu'il se retrouve confronté à Igor.
Bah oui, les deux...
Igor !
Qui s'amuse à lui foutre des patates avec son grand bâton électrique, là.
Un coup de taser, quoi.
Pendant ce temps, bah, Van Helsing... Oh, bah tiens, c'est la pleine lune.
Oh, bah ça tombe bien, alors.
Il faut se dépêcher de sauver la créature aussi.
Oui, il sauve la créature, et créature qui ira sauver Carl après par la suite, hein, soit dit en passant. Van Helsing se transforme en loup-garou, parce qu'évidemment la pleine lune arrive, hein, et le Dracula commence à se chier dans le froc.
Juste, on en parle de la transformation.
Oui.
Ce magnifique plan torse de Hugh Jackman. Rien que pour ça, tout le film, voilà. Tout le film vaut d'être vu pour être...
Moi, je préfère le plan dans Australia avec le seau d'eau, hein. Quitte à choisir un plan pecto de Jackman, je préfère Australia à ce prix-là, hein.
Bah, moi, à choisir, je préfère les plans Wolverine aussi, hein. Mais bon, là, puis on se contente de ce qu'on a dans ce film, et c'est bien aussi.
Voilà, donc la transformation qui est un petit peu différente quand même de celle de Velkan, parce qu'il y a, on voit moins le côté arrachage de peau, en fait. Parce qu'il y a une mise en scène qui fait que...
Bah mais Van Helsing, n'étant pas complètement humain non plus, le monstre, il est peut-être pas tellement à l'intérieur de soi, en fait. Il est déjà monstre, en fait. Donc, le monstre, il émerge pas de l'extérieur, de l'intérieur, en fait. Il est déjà là. Donc, c'est peut-être un peu pour ça, tu vois. Puisque, comme c'est un peu le parèdre de enfin le parèdre, l'opposé de Dracula, tu vois, c'est tous les deux des monstres. C'est pas un homme qui est devenu un monstre. Il le dit, t'es le bras droit de Dieu. C'est un peu chiant, mais bon, voilà. Donc finalement que la transformation soit un peu différente, c'est pas déconnant. Bon, après les effets spéciaux laissent un peu à désirer, mais on pourrait parler de Dracula à ce prix-là. Hein.
Bon, on va en parler. Hein. Sa version chauve-souris.
Sa version évoluée, oui.
Ouais. Et par contre, je suis déçue, lui, il fait pas craquer sa chemise, par contre, hein.
C'est vrai que c'est pas juste.
Quel dommage.
Non, parce que lui, il transforme ses vêtements. Ses vêtements font partie de sa transformation.
Ouais, mais c'est nul, on a préféré un plan pecto de Richard Roxburgh.
Ça.
Mais comme Xian, parce qu'évidemment, on n'en a pas parlé, ça, mais il y a la révélation de la vraie identité de Van Helsing. Parce que qui ne s'appelle pas Abraham Van Helsing, comme dans le roman de Dracula, mais il s'appelle Gabriel Van Helsing. Bon, si on a un minimum de connaissances dans la mythologie chrétienne, bon, Gabriel, on sait à quoi ça fait référence. Et donc, ce Van Helsing est un espèce d'avatar de l'archange Gabriel, quoi. Et qui est là pour buter les monstres.
C'est ça. Et c'est lui qui a tué Dracula au début.
Et c'est lui, voilà, qui a tué Vladislas, Dracula, machin, et qui en fait un vampire. Et l'anneau que porte Van Helsing, en fait, c'est l'anneau de Dracula quand il l'a dézingué et coupé un doigt.
Je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça, mais...
Je pense qu'il n'y avait pas besoin, en fait. C'est vraiment du superflu qui...
Ils ont voulu faire dans l'originalité, quoi. Rajouter des trucs.
Et puis c'est quoi l'intérêt de lui enlever la mémoire après ? Dire, il pourrait très bien être ce bras droit de Dieu et l'assumer totalement et vivre comme ça pendant des siècles et des siècles. D'ailleurs, c'est quoi ? C'est le Vatican qui lui enlève la mémoire à chaque fois ou...
Men in Black.
Non, parce que les mecs du Vatican disent on vous a trouvé sur le seuil du Vatican un matin, donc...
Ouais, mais est-ce que c'est pas des gros mythos, justement ?
Il s'est pris une grosse cuite, il s'est pris un coup sur la tête, amnésie, et puis basta, hein. Je veux dire, il passe son temps à se foutre sur la gueule, il y a peut-être un moment...
Il a 9 vies comme les chats, et au bout d'un moment, chaque fois qu'il revient à la vie, il oublie ce qui s'est passé avant.
Ça doit être un truc comme ça. Mais voilà, c'est là encore au niveau scénario où le scénario a voulu être généreux, et il est généreux avec nous, en fait.
Trop généreux.
Mais voilà, il a été trop généreux, en fait. C'est un bon gros gâteau de tarte à la crème, mais à bout d'un moment, la crème, c'est écœurant, quoi. Mais on l'aime quand même, hein.
Ah oui, oui.
On prend beaucoup de plaisir à le regarder. Donc, nous avons donc une bataille Dracula-Loup-Garou qui est plutôt pas mal.
Oui, parce que Dracula, en plus, il a peur à ce moment-là. Il sent bien qu'il va voir. Donc, il essaye de négocier. Bon, il cabotine un peu moins, hein, mais... Bon, c'est Dracula, donc forcément, il leur fait aussi des caisses. Mais on sent bien qu'à ce moment-là, Dracula, il est plus dans son côté. Ah, coucou rigolo, je suis comique, je cabotine. Et... Ah, merde, là, je vais avoir des problèmes. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et... Finalement, Dracula, il est assez cohérent, parce que tant qu'il était supérieur, il se permettait tout, et là, tout d'un coup, il se retrouve dans une situation où il a plus peut-être le dessus. Finalement, ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'on peut reprocher à Richard Roxburgh de faire un Dracula qui cabotine, mais au moment où il perd sa puissance, entre guillemets, il l'est beaucoup moins. Moi, ça, j'aime bien.
Moi, je trouve que ça se sent, en fait, à un moment donné, Dracula, il voit Van Helsing qui se transforme, et là, on voit qu'il se décompose, en fait. On sent la peur sur le personnage de Dracula en se disant « je suis mal là ». Et ça, je trouve vachement intéressant parce que c'est vrai que lui, jusqu'à présent, ou même ses épouses, hein, elles avaient toujours été hyper confiantes. Elles n'avaient jamais peur de rien. D'ailleurs, elles y allaient la fleur au fusil pour tout. Bon, là, toutes les épouses sont mortes. Et lui, il se retrouve dans la mouise. Et vraiment, il a peur. Il sait qu'il n'est pas invincible, contrairement à ce qu'on pouvait penser jusqu'à présent. Donc c'est vraiment intéressant de le voir, ouais, il essaye de négocier, non mais viens, on va faire tous les deux, ça va être bien, on va dominer le monde tous les deux, non il veut pas, bon. Bon voilà, et le contre-la-montre est lancé, hein, parce que c'est avant les 12 coups de minuit, hein, c'est comme Cendrillon, et donc on entend le son des cloches sonner, et il faut qu'il se fasse piquer, il faut qu'il dérouille, faut que Van Helsing dérouille Dracula, et qu'on puisse le piquer avant...
C'est triste de finir quand même, comme ça chez le Veto piqué. Le gros chien chez le Veto.
C'est ça. Alors après, on entend quand même le premier coup, mais après c'est hyper long. Enfin, j'ai l'impression que les 12 coups de minuit n'arrivent pas. Enfin, la scène est rallongée. Mais bon, ça...
Oui, et puis en vrai, les 12 coups de minuit, normalement, quand tu les écoutes, ils font 12, c'est à peu près... ça va assez vite, quoi. Là, ils sont très longs. Leurs 12 coups, quand même.
Ouais, en fait, c'est des coups, les 12 coups de minuit qui prennent 12 minutes, en fait.
C'est ça.
C'est pour le suspense.
Et puis là, mon Dracula, il meurt.
Voilà, et donc, le loup-garou, fait la fête à ce pauvre Dracula.
Et il lui dit, nous pourrions être amis, nous pourrions être associés. En plus, il essaye de... Voilà, de...
Oui, il essaye de négocier, sauver sa peau, et puis Van Helsing lui bouffe le cou, donc...
Comment il meurt, déjà
Il le mord.
Ah ouais.
Il lui bouffe la gorge.
Ah oui, c'est ça, ouais.
C'est il meurt, le pauvre Dracula.
Lui qui rêvait de devenir un bon petit papa.
Bah, pas cette fois.
C'est triste.
Mais en fait, il se retransforme en humain, justement, avant.
Oui, au sein de la bataille, en fait, il se transforme en loup-garou, puis la lune est cachée par les nuages, donc il redevient humain, et après, il redevient loup-garou.
C'est ça.
Moi, j'aime beaucoup quand il s'aiguise les griffes sur le mur. Là. Tiens, coucou, t'as vu ce que j'ai, là? Je vais te défoncer. Je vais te faire la nique.
Et donc, on en parle, là, justement, que Van Helsing, quand il se retransforme en humain, il a pile son pantalon qui lui couvre juste les parties.
Le fameux.
Voilà. Je trouve ça inadmissible.
C'est pas logique, hein.
On aurait pu avoir un plan fait, ça.
Bah, on aurait pu avoir un plan fait.
Pas surtout qu'il l'a fait dans d'autres films, hein. Donc,
Bah, voilà.
Encore un défaut scénaristique, hein.
Bah, un gros défaut.
Pour revenir avant qu'il se retransforme, parce qu'évidemment, il va réussir à se faire piquer. Donc, c'est Karl qui avait la seringue. Sauf qu'il pouvait plus accéder au château parce que le pont était coupé. Donc, c'est Anna qui nous fait Tarzan, qui récupère la seringue en plein vol.
Avec les câbles suspendus, on ne sait comment.
Exactement.
Bah, accroché au nuage.
Ta gueule, c'est magique. Et donc, qui arrive dans la salle où Van Helsing vient de bouffer Dracula. Et donc, elle se jette sur Van Helsing pour pouvoir lui faire sa piqûre. Hein. Il se jette sur elle aussi, évidemment, sauf que lui, c'est tout croc dehors. Il se fait piquer, mais malheureusement, comme le dit Karl, il l'a tué.
Ils sont obligés de dire, enfin, je sais pas pourquoi ils sont obligés de faire dire à Karl, oh, il l'a tué, juste pour être sûr que le...
Ouais, au cas où on l'aurait pas vu parce que...
Voilà, il faut que vous compreniez là, elle est morte.
Comment il... Enfin, pourquoi elle se transforme pas en loup-garou? Il aurait pu la mordre et se transforme en loup-garou.
Je pense qu'il lui casse juste la nuque quand il lui saute dessus, en fait. Il la mord pas, elle a pas de trace de morsure, hein.
Ouais, c'est ça. Ah oui, voilà.
Elle prend un gros coup du lapin.
Elle a survécu à des chutes. À des cascades, à des trucs de fou pendant tout le film, et là, un petit coup de loup-garou, et pouf, elle meurt.
Non, c'est le coup du lapin, hein, paf, adieu la nuque.
Fallait y aller moins dur, hein.
Bah, te faire jeter dessus, comme par un mec à poil, ça a toujours assez risques et périls, hein.
Voilà, c'est triste. Donc, gros instant drama, avec Van Helsing qui redevient humain, qui la prend bizarrement.
Ouais, c'est bizarre.
Pour pleurer, c'est hyper sexuel et toi t'es là.
Ouais.
Enfin, t'aurais pu juste t'effondrer sur elle plutôt que de la prendre là, en espèce de position un peu bizarre là.
ceux qui ont vu le X-Men 3, là, l'affrontement final, savent que bah, c'est quasiment la même scène à la fin avec Jean Grey. Alors, je sais plus quel film a été tourné avant l'autre. Je pense que X-Men l'affrontement final, c'est après. Voilà, j'en suis pas certaine, mais c'est assez rigolo la similitude entre les deux scènes. C'est dans un cas Van Helsing, dans l'autre Wolverine qui tue la femme de sa vie et voilà, et qui après si je me souviens bien, en plus il la tient à peu près de la même façon dans les deux films, donc c'est...
Oui, mais tu vois, quel besoin de lui relever la jambe, là, tu vois, parce que il lui relève la jambe, là, comme si ils allaient faire une scène de sexe et tout est là.
Bah attends, il n'y en a pas eu dans le film, fallait, voilà, vite tant qu'elle est encore un petit peu fraîche, enfin un petit peu chaude.
Donc bon, voilà, grosse scène un peu drama, parce que bon, voilà, il l'a tué, mais bon, c'est vrai que c'est un peu triste la scène, parce que bon, là, Anna Valerius, ça fait, elle s'est battue, elle a machiné, et elle meurt, bah, comme une grosse merde à cause de l'autre, là. Et en fait, moi, je suis pas du tout pour la romance avec Van Helsing, parce qu'elle marche tellement pas que... voilà. Mais juste parce que, putain, la meuf, elle a passé des siècles à combattre Dracula, et là, c'est il est ça. Mort, et elle crève comme une grosse merde, parce que l'autre, il jette sur elle, quoi.
C'est ça, elle va même pas pouvoir en profiter, en fait, de tout...
C'est ça.
D'un autre côté, elle le dit assez que voilà, tout ce qui compte pour elle, c'est sa famille.
Oui.
Mais il n'y a plus personne.
Et vu que toute sa famille est morte, finalement, c'est le mieux qu'on pouvait lui souhaiter. Hein. Bon, c'est triste à dire.
Oui, elle va rejoindre sa famille.
Voilà. Ouais.
Finalement, moi, je trouve ça plutôt bien, en fait. Parce que, pour le coup, là, le scénario, il a osé un truc. Je veux dire, alors que dans tous les films de ce type, à part, bon, on va pas revenir sur X-Men, parce que, bon, X-Men, il y a tellement de variantes, des machins, des trucs, mais dans ce genre de film, plus ou moins originaux, bah ouais, à la fin, le couple, ils restent ensemble, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, et là, le scénario a oser autre chose, bah oui, elle meurt et en plus c'est lui qui la tue. Donc moi je trouve que pour le coup c'est un très bon point de ce film en fait. Ils ont osé sortir des codes, de faire un truc différent. Et tu vois quand on parle de on peut parler loup-garou. Bon Sally, je t'apprends rien, toi t'es femme du Wolfman. Mais souvent la fille elle s'en sort et c'est lui le loup-garou qui meurt. Donc là finalement on a une inversion du thème qui finalement est assez intéressant. Où c'est le loup-garou qui survit, entre guillemets, hein, puisque le loup-garou, lui, meurt, même si l'homme survit. Par contre, la fille, elle meurt.
Oui, alors, d'ailleurs, tu fais référence là au Wolfman, je vais rebondir. Quand Carl, il lit le panneau, le dessin animé, là, le texte du dessin animé dans le château, c'est exactement le même texte qu'au début du film du Wolfman, de 1930, qui est justement un poème qui a été créé pour la version Universal Monster, qu'on retrouve aussi dans le Wolfman qui est sorti en 2013 ou 2014, là, avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins, qui reprennent aussi ce poème. Donc, encore une fois, c'est une référence aux Universal Monster. Ah, vous saviez pas ça, hein ?
Ah bah non.
Ah non.
Ah bah maintenant, vous sachiez.
Bon, puis maintenant, instant crémation.
Instant gênance.
Bah au moins là, pardon, mais elle est chaude au moins la meuf.
Ah bah, elle est tellement chaude qu'elle illumine le ciel.
Qu'elle s'évapore.
Elle fout le feu. Allumez le feu.
On pourrait presque s'attendre à ce qu'elle dise « N'oublie pas qui tu es ».
Mais non, mais c'est l'instant Mufasa, moi je le dis, moi je l'appelle ça l'instant Mufasa. Bon, c'est vrai.
Oui, mais regarde, on les voit tous rentrer chez Saint-Pierre, parce que enfin il décide d'ouvrir sa porte, ce gros connard. T'as une famille, ça fait neuf générations qu'ils se battent contre le mal, mais c'est que maintenant que tout le monde est mort, qu'il leur ouvre la porte parce que l'autre il est mort. Même pas par leur contribution à eux, quoi. Ça c'est quand même pas sympa Saint-Pierre, hein.
Mais c'est une fin heureuse. Elle retrouve sa famille, ils sont contents. C'est presque une happy end, en fait, au final. Parce que bon, comme on voit que la romance, elle marche pas bien, ça se trouve, Anna Valerius et Van Helsing, ils auraient baisé deux fois, une fois le soir, une fois le matin, parce que c'est rigolo. Et puis bon, après, là, du coup, ouais, elle retrouve sa famille et ils vont tous aller s'éclater au paradis. Non, mais c'est une bonne fin, quoi. Moi, je dis que c'est une happy end.
Ah ouais, non, mais le visage dans le ciel...
Ah oui. Toi, tu regardes, tu là, c'est la fin, ça va être... Et là, t'es là. Oui. Instant gênance.
Ah ouais.
Mais c'est à ce moment que tu te dis, qu'est-ce que je viens de regarder ? Est-ce que c'est un téléfilm d'M6 du dimanche après-midi ? Mais voilà, c'est pour ça aussi que c'est rigolo. En fait, la fin du film est à l'image du reste, quoi. C'est même l'apothéose de tout ce qu'on vient de voir.
Oui, et donc nous avons un dernier plan de Van Helsing et Carl à cheval qui repartent vers l'aventure.
Compagnon,
je suis partie vers l'horizon.
Ah, on n'a pas parlé de la créature de Frankenstein qui quand même s'en est sortie et
oui.
Qui se barre tout seul sur sa petite barque.
Oui, c'est vrai, il se casse.
Oui, aussi.
Bon, il a raison. Hein.
Bah, parce qu'il n'y a plus rien à dire en fait.
Bah, c'est ça, c'est... en fait finalement c'est pour lui que ça se finit le mieux.
Ouais.
Oui. Et ça laisse une porte ouverte pour un Van Helsing 2.
Et voilà, qu'on attend.
Qui n'est jamais venu.
Qu'on attend avec impatience.
Qui ne se fera jamais.
Écoutez, rien n'est perdu, hein. Peut-être que Hugh Jackman voudra reprendre le rôle 20 ans plus tard.
Ah, oh, ça serait tellement drôle d'avoir un vieux Van Helsing et un vieux Carl qui forment une nouvelle génération. Et avec la créature qui vieillit pas.
Mais en fait, Elic G pourrait être dans le même genre, parce que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires a une fin plutôt similaire, on l'avait revendu ici, mais en fait, alors,
Je vais pas dire qu'il n'y a jamais eu de suite, hein, ni rien, hein, parce que des films comme James Bond à l'appel, mais on a une période, enfin, début des années 2000, où on a Star Wars quand même, qui est en train de se faire faire la prélogie. On a eu Le Seigneur des Anneaux. Il y a les Harry Potter. Alors, je sais pas lesquels étaient encore sortis, mais clairement, les Harry Potter sont lancés. Donc, on est dans une période où, en fait, il y a plein de, enfin, Marvel aussi a commencé, enfin, Marvel d'ici, hein, puisqu'on a eu des choses merveilleuses comme Daredevil. Pardon. Voilà. En fait, t'as les studios, ils lancent des franchises.
Ils essayent, ouais.
Dans l'espoir de continuer et d'en faire plusieurs. Avec Elite G, c'était le cas, bon, ça a foiré. Van Helsing, c'est le cas, ça a foiré. Donc, t'es tout dans une période où t'as l'impression que quand ils font un film, ils sont pas juste là pour faire un film, mais pour potentiellement ouvrir des portes sur d'autres choses. Et finalement, est-ce que ça nuit pas au scénario plus qu'autre chose? Parce qu'à vouloir mettre des portes pour faire d'autres films, bah, ils se plombent pas un peu.
Bah, surtout que ce film-là, ils auraient déjà pu le faire en deux films minimum, tant ils ont essayé de tout comprimer en un seul, et du coup, il y a plein de choses qui auraient mérité d'être développées et qui n'ont pas été.
Mais en fait, Van Helsing aurait pu passer en série aussi. Alors après, moi je me souviens pas dans les années 2000, mais il me semble qu'aussi à une période,
il y avait une série qui devait être prévue, et puis bah, vu l'échec du film...
Ouais, ils n'ont pas fait la série.
Ils ont laissé tomber... Mais il voulait se lancer dedans. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait le dessin animé qui revenait sur Jekyll et Hyde et Van Helsing, pour faire un petit peu de cohérence. Et voilà, c'était un petit peu l'idée, quoi. C'était effectivement de lancer une franchise dans le Monsterverse, avec toujours les créatures et chasseurs de vampires et compagnie, là. Bon, comme je l'ai dit, le Monsterverse, c'est pas une grande réussite, hein, parce que si on voit, après Van Helsing, ils ont laissé tomber... Mais ils ont essayé de reprendre il y a quelques années avec le Dracula Untold, la momie avec Tom Cruise. Ils avaient tout lancé pour faire ça et finalement ça s'est aussi cassé la gueule.
Heureusement, on a eu Hôtel Transylvanie qui a bien marché.
Oui, je pense qu'on va pouvoir conclure. Camo, tu nous fais ton bilan de ce film ?
Mon bilan, ben c'est... comment dire ? C'est...
Hugh Jackman.
Hugh Jackman, voilà, c'est ça, c'est le bilan du film. Bah, disons que, bon, clairement, peut-être que je m'intéresserais pas autant au film s'il y avait pas Hugh Jackman dedans, de base. Mais, je dirais que c'est même pas son rôle le plus emblématique, parce que c'est pas lui, finalement, le personnage le plus intéressant du film, je trouve. C'est tout ce qu'il y a autour. Tout ça qui, tout ce qui est l'ambiance, même les décors sont un personnage à part entière, je trouve. D'ailleurs, est-ce qu'on peut qualifier ce film de film steampunk? Je sais pas, parce que il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de choses qui touchent à la fois à la science, à la magie, au mélange des deux. Et puis il y a une esthétique un peu engrenage, on va dire, mais je suis pas sûre que ce soit suffisant pour en faire un film steampunk, par exemple, parce qu'il y a pas de machines volantes, par exemple. Il nous aurait sorti les machines volantes. Là, on aurait pu le catégoriser comme ça. Mais sinon, globalement, je trouve que c'est un film très divertissant. On s'ennuie pas une seule seconde. Et puis voilà, ça permet de passer un bon moment, que ce soit de rigolade ou même pour un scénario qui est bancal par moment, mais qui est aussi qui est plaisant à suivre. Voilà.
Très bien, merci Camille. À toi, Léandra.
Oh bah moi oui, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que voilà, ça se prend pas au sérieux, c'est hyper kitsch parfois, mais c'est ça qui est fun, quoi. Et ouais, c'est un bon divertissement, quoi. Au moins ça y va à fond. Il y a des scènes qui sont, enfin, ça s'arrête jamais, quoi. La musique, elle s'arrête jamais, la baston, ça s'arrête jamais. Il y a vraiment pas de temps mort, et c'est ça qui est drôle à voir. Et puis bon, bah oui, Hugh Jackman, bon, c'est sûr que ça attire toujours un peu les foules. Bon, c'est vrai que c'est pas son meilleur film, quoi.
Est-ce que vous pensez que le chapeau d'Hugh Jackman est une référence à Indiana Jones ?
Alors, non, visiblement, ça fait plus référence à Salamone Ken. Parce que certains faisaient quand même remarquer, surtout sur les affiches. Alors, le film Salamone Ken est sorti beaucoup plus tard, hein, et je crois qu'il n'a pas le chapeau sur l'affiche. Mais voilà, visiblement, c'est deux personnages qui partagent des similitudes. Alors, après, ça peut être aussi Indiana Jones, hein, c'est pas exclu. Mais ça n'a pas l'air d'être la référence de base. Puis, dans Indiana Jones, j'ai envie de dire, c'est très différent, puisque l'univers est censé être réaliste, et t'as toujours du fantastique qui s'incruste, hein.
C'est pas encore le même, c'est pas du tout le même genre d'univers. Même s'il y a des petits hommes verts, parfois. Pardon, c'était pour la rime.
Alors, moi, le bilan que je tire du film, bon, au cas où ça serait pas entendu, mais bon, j'adore les monstres classiques universels, hein. Donc, évidemment, ce film est une grosse preuve d'amour à ces monstres-là, hein. Il nous en manque quelques-uns pour compléter la panoplie, hein, mais on s'attendrait presque à, effectivement, s'il y avait une suite, à voir l'homme invisible ou la créature du lac noir apparaître, hein, surtout la créature du lac noir, il y aurait eu possibilité. Donc voilà, donc moi je sens tout cet amour qu'on peut avoir de ces monstres-là, hein, donc moi ça me fait super plaisir. En vrai, effectivement, ça pourrait être une grosse fanfic. Donc moi ça me plaît bien parce que c'est totalement le genre de truc que je kiffe, tu vois, où tu mets tout le monde et puis tu t'éclates bien avec. Bon, il y a des gros problèmes de scénario, notamment avec les loups-garous, franchement moi je m'en remets pas de ça. Mais sinon c'est super cool, Richard Roxburgh, moi je le trouve extraordinaire dans le film, hein. La musique d'Alan Silvestri, on s'en lassera pas non plus, hein, elle sert bien le film, hein. Donc franchement, pour moi, c'est juste un petit film jouissif, qui s'est fait bâcher à juste titre, parce qu'il y a quand même des gros problèmes de scénar, mais franchement, on prend vraiment beaucoup de plaisir à le regarder, si on se dit, bon allez, ok, on accepte que c'est comme ça, franchement, pour moi, c'est que du bonheur, et puis bah, toujours cet amour des monstres universels, donc ça, c'est vraiment un film qui a été fait avec amour, qui a plein de ratés, mais on sent tout l'amour qu'il pouvait porter à cet univers-là, quoi. Xiad, à toi.
Richard Roxburgh.
T'es sûr?
Et sa queue de cheval. Ouais, non, mais je peux te rejoindre, Sally, hein. Oui, pour moi, il y a pas grand-chose qui va, hein, à part Richard Roxburgh, pardon. Mais oui, il y a des défauts dans tous les coins. T'as des fois, mais pourquoi? Oui, c'est un film qui a voulu mettre trop de choses dedans. Hein, mais pourtant Stephen Sommers, enfin c'est pas son coup d'essai, hein, je veux dire, avec La Momie il a quand même géré, et dans La Momie il y a vraiment que La Momie entre guillemets, il a pas alors qu'il y a peut-être plus moyen d'intégrer d'autres choses un peu machin, là il en met beaucoup trop en fait. Bon, après tu me diras, Frankenstein, le loup-garou et Dracula ensemble,
c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, hein.
Oui, non, mais c'est pas nouveau, mais finalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce que parce que finalement, ben, en fait, comme le but c'était de rassembler tout le monde, les liens entre tous les éléments sont pas cohérents. Bon, bah, désolé pour Hugh Jackman, mais en fait, Gabriel Van Helsing, il est un peu insipide.
Non, mais je suis d'accord.
Il est pas forcément très touchant, tu vois. Il a perdu la mémoire, mais en fait, t'es à peine touché. Parce que tu t'as pas l'impression que ça le travaille tant que ça, en fait, d'avoir perdu la mémoire. Ou, tu vois, il manque des choses, il manque de l'émotionnel dans ce film. Alors, Anna et Velkan donnent un peu le côté émotionnel. Mais pareil, il y a un truc qui marche pas. Il y a des choses, c'est rien qui marche dans ce putain de film. À part Richard Roxburgh, mais voilà. Mais pareil, tu vois, quand on l'a regardé, t'es là. Pff, mais ouais, mais c'est bien, c'est bon, c'est... Ouais, c'est la fanfic un peu con qu'on a voulu écrire. Non, oui, le film est blindé de défauts. Ça serait mentir de dire le contraire. Mais pourtant, malgré les défauts, c'est jouissif à regarder. Parce que ouais, peut-être que le film a été justement fait avec un certain amour, une connaissance du sujet aussi, mais voilà, ça c'est juste que ça a pas marché, quoi. Mais moi, je regarde ce film à loisir, en fait. Donc, quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter?
Non.
Non? Bah, si personne n'a d'autre chose à ajouter, bah, on va s'arrêter là pour ce soir. Et bah, merci les filles d'être venues parler de Van Helsing avec nous, ça m'avait super plaisir.
Avec grand plaisir.
Et merci.
C'était bien chouette.
Merci à vous.
On aura bien rigolé.
Oui.
Je suis désolée de dire que des conneries plus grosses que moi, mais étant donné que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, il faut bien que je meuble. Voilà. Promis, le prochain, je ne parle plus de queue de cheval.
Ben, ça dépend du film. Si un personnage avec queue de cheval, tu peux toujours en parler.
Il faut.
Ça sera très certainement avec des bateaux volants.
Ah, mais de quoi vous... Qu'est-ce que vous allez traiter comme film, dis-donc, je me le demande.
Il y aura des cheveux, il y aura des queues.
Ouais.
Ah.
Des chevaux aussi. Surtout sur Mads Mikkelsen. Ouh. Mads Mikkelsen a une queue de cheval, oh putain.
Ouh là là. Des capes et des épées aussi.
Ouais, des grandes épées.
Bien longues, bien dures.
Voilà. Bien dures en fer forgé. et des choses qui s'empalent sur la flèche de Notre-Dame. Bon, on va arrêter là, parce qu'en plus, on parle d'un épisode qu'on n'a pas enregistré, que je ne sais pas quand on va enregistrer, donc voilà, c'est peut-être pas la peine d'en faire des caisses, hein, mais...
Ouais, mais sachez qu'il arrivera un jour.
Il arrivera. Et puis, il faut bien teaser un peu, hein.
Puis j'essaierai d'être tenable, parce que ça va être compliqué. Ben, Sally vous dira, mais il y a Richelieu, donc rien qu'à partir de ça, je suis intenable.
On a dit qu'on n'en parlait pas plus.
Bon, bah les filles, en tout cas, merci d'avoir participé à cet épisode, c'était super chouette. Merci tout le monde d'avoir participé à ce podcast, hein. C'était super chouette. Et puis, ben, peut-être à une autre fois pour de nouvelles aventures, et puis si les... Et... Je vais y arriver. Et merci aux gens qui écoutent ce podcast. Allez, salut tout le monde.
Salut tout le monde.
Salut.
Bonsoir.